Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix jusqu'à 20h avec un trio qui se connaît bien. Ah oui, qui se connaît même très bien.
Qui s'apprécie surtout.
Oui.
Enfin, on s'apprécie. Le trio s'apprécie, c'est ce qu'on dit. Pas le quatuor, forcément.
Oui,
c'est pas
le quatuor. C'est qui celui du quatuor?
Mais je ne sais pas, c'est pas le quatuor d'Alexandrie. Merveilleux.
Oh, Laurence Durel.
Extraordinaire. Je vous conseille, si vous n'avez pas lu, je vous conseille le quatuor d'Alexandrie. C'est extraordinaire.
Il voit naufrager les papillons de ma jeunesse.
Donc, vous n'êtes pas là. Oh là là.
C'est autre chose.
Mais c'est bien aussi.
Chacun sa culture.
Mais c'est bien aussi.
Dans le micro, culture.
Non, mais c'est très bien. Parce que c'est Étienne Rodagil quand même.
Oui, qui a fait les paroles.
C'est quand même de très haut niveau les paroles pour Clo-Clo.
Absolument. C'était son dernier album. D'ailleurs, alors vous les avez entendus.
Donc
ce
on,
trio
a, dit,
de
on
choc.
A bien compris, le trio, le quatuor, vous n'en faites pas partie.
Oui, vous êtes Nadal, Federer et Djoko.
C'est ça.
Et moi, je vais être un modeste joueur de quatrième série.
Non,
vous allez remercier Jamel.
Jamel, merci Jamel qui nous met Alexandra. Alexandra.
Allez, vas-y, vas-y.
Alors, vous les avez entendus dans Malheureusement, Clo-Clo n'est pas là.
On s'en fout de ton émission.
Non, mais on aurait vraiment aimé l'avoir. Les vraies voix du jour. Le président, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Voilà. Mais il pourrait y avoir plein d'autres titres de président.
Bien sûr, on va arrêter.
Auteur du livre Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie, La Claudette des vraies voix.
C'est moi.
Oui. Françoise de Gouin.
J'écoute un coup de boule, toi, tu sais, avant la fin de la soirée.
Tu vas voir la Claudette.
Éditorialiste Sud Radio.
Tu vas voir
le Clodo. Et LCI. Et Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, qui me dit à chaque fois qu'il vient et qu'il y a Françoise et Philippe, qu'il y a énormément de travail de psychologie à faire avec eux. N'est-ce pas, mon cher Jean ?
Je préfère garder le silence.
Ah, j'ai cru que vous alliez dire, je préfère manger à la cantine pour rester dans la chanson française.
Absolument.
Carlos.
La cantine, Carlos.
Oh, pardon,
avec
autant
les
pour moi.
Copains non, et les copines.
C'est ça, bah, ça commence, c'est la grande forme. Nos deux grands débats à 17h30, OLOM, qui faut-il sanctionner ?
Tout le monde.
Vous avez vu hier un match arrêté au bout de 4 minutes parce qu'un crétin a jeté une bouteille pleine sur la tête, l'arrière du crâne, du joueur de l'OM, Dimitri Payet, alors qu'il avait déjà pris lors du match à Nice. Qui doit être sanctionné ? Là, on a mis 4 réponses. Grand 1, le club par une amende. 2, le public par du huis clos. 3, l'équipe par un retrait de points. Et 4, seulement le lanceur de bouteille. Moi, je dirais les 4 à la fois, mais ça ne concerne que moi.
Et puis, on peut faire, vous savez, un truc génial, si on peut en parler, interdiction de stade à vie.
Ah, mais ça, je suis entièrement comme ils ont fait en Angleterre.
On est bien d'accord.
Le mec,
à 18h30, notre grand débat, Guadeloupe-Pays-Bas, les restrictions sanitaires poussent-elles les gens à bout ? Vous avez vu quand même qu'à Rotterdam, on a tiré à balles réelles sur la foule. Il y a au moins 7 blessés. Et alors qu'en Guadeloupe, on a tiré à balles réelles sur les forces de l'ordre. Et à 18h15, on aura un moment, un débat d'actu exceptionnel. Notre débat de 18h15, pardon, il y a en ce moment même un colloque sur l'Afghanistan à l'Assemblée nationale, 3 mois après la chute de Kaboul aux mains des talibans. Et ce colloque concerne les talibans, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et on aura Frédéric Ancel, qui est un des organisateurs du colloque, qui sera en direct avec nous en sortant spécialement du colloque. Bon, les vraies voix, vous savez que Sud Radio est la station du rugby. Donc mon petit doigt me dit que vous avez crié samedi soir.
Oh là 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 là.
On se réécoute un peu ce moment de bonheur sur Sud Radio.
Allez, tous les essais.
Et ben c'est parti.
Et c'est parti pour ce France-Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont dans un bon tempo pour Gavin Villiers. On gagne mètre après mètre. Prise de balle après prise de balle. Et remet à bec. L'essai. Melvin Jaminet. Et il la passe.
Et l'arbitre il la passe. Siffle
40 à 25. Incroyable, Daniel.
Jaminet.
Et on attendait ça depuis 12 ans, une victoire contre les All Blacks. Et à Paris, ce n'était pas arrivé depuis 1973.
Jaminet,
énorme.
Non mais Jaminet, d'où il sort en plus ? Quand on voit qu'il sort de la D2. Enfin,
oui, il était en Pro D2 il y a encore un an.
Infaillible.
On l'envoie à la tournée en Australie, il fait du 100% au pied.
Un sang froid.
Je me demande même si c'est pas l'enfant caché de Johnny Wilkinson quand je vois sa précision au pied.
Écoute, j'allais te dire, je le vois, moi je suis dingue de Johnny Wilkinson, bien sûr, en plus j'ai habité à Toulon, j'ai vu Johnny Wilkinson jouer, mais j'ai l'impression de voir Jaminet, j'ai l'impression de revoir Wilkinson.
À part que l'un jouait 10, l'autre 15, mais en précision au pied.
Non mais je veux dire, regarde, tu vois, dans cette façon-là de se concentrer, de bosser, de taper des balles, le stade, le match est fini, l'autre il retourne taper des balles, j'adore.
Il est extraordinaire et on a vu un moment sensationnel où les Blacks ont explosé parce que c'est le plus gros écart de l'histoire de France All Blacks parce que quand on les avait battus en demi-finale en 84, 19, ça avait fait 43-31, là ça fait 40-25, il y avait 15 points d'écart samedi contre 12 seulement il y a 22 ans. Et vraiment, la France a chaviré pour cette équipe. J'avais un copain d'un village que vous connaissez bien, Betpouey, ma chère Françoise. Louise Ouarmarie m'a passé un coup de téléphone tout à l'heure, qui était en 94 sur le terrain pour les deux victoires face aux All Blacks en Nouvelle-Zélande. Et je lui dis, écoute, si jamais la relance de Ntamack, elle finit en essai, c'est encore plus grand que l'essai de Sadourny en 94.
L'essai de la décennie.
Et là, il disait, c'est vrai que là, j'étais sur le terrain. Ouais. Et je te salue, Louise Ou, la bise. L'essai de Sadourny, il m'a dit, t'aurais été sur le terrain, c'était vraiment grandiose, il y a plus de 80 mètres de course. Et là, vraiment, ces Bleus nous ont fait rêver.
Oh Philippe Bilger.
Avez raison, Philippe, et j'espère que vous alliez parler d'un phénomène psychologique important, c'est que je ne raffolais pas de Galtier, mais il faut être juste, c'est un formidable entraîneur qui l'a métamorphosé, cette équipe de France. Et deuxièmement, j'ai eu très peur. À un moment donné, pas seulement à la fin de la première mi-temps, mais j'ai, dans ma tête et ailleurs, j'ai dit qu'ils tiennent, mon Dieu.
Ah oui.
Et à un moment donné, j'ai eu très peur. Les Blacks reviennent gonflés à bloc et une certaine équipe de France, à une certaine époque, aurait molli psychologiquement et sportivement. Et là, elle a été fabuleuse grâce à la provocation géniale de Ntamack.
Ah qui c'est le tournant du match, parce que si c'est pas lui qui prend le ballon dans le but, qu'ils aplatissent, là, comme on dit, les mouches auraient changé d'âne.
Voilà, on aurait même pu utiliser d'autres métaphores.
De l'expression du rugby qu'on utilise beaucoup en politique. Tu vois, par exemple, avec Zemmour, ça change d'âne, les mouches, en ce moment.
Ouais.
Je dis ça, je dis rien.
Oui, et aussi, les cochons sont dans le maïs.
Ntamack, c'est juste exceptionnel. C'est vrai que ça aurait été Maradona du niveau
face à l'Angleterre, oui.
Juste un mot, je ne veux pas doucher nos ardeurs, Jean, pardon, mais... J'ai trouvé quand même les Blacks. Moi, j'adore cette équipe. C'est les plus grands joueurs pour moi au monde. Je les ai trouvés faibles et fragiles. Je les trouve fragiles face à l'Irlande. Ils ont été fragiles. Ils ont montré des faiblesses qu'on leur connaissait pas, notamment dans ce jeu tout le temps dans la vitesse. Ils ont manqué de rythme. Donc, ils se cherchent. Donc, c'est très bien. On a gagné. C'est sublime. Mais ça fait pas de nous des champions du monde dans deux ans. Quand les Blacks vont se reconstituer, là, je les trouve fragiles.
Avant de donner la parole à Jean Dorido, est-ce que vous permettez de vous poser une question? Samedi, les Anglais ont battu les Australiens d'un point à la dernière minute.
Oui, bien sûr.
Les Gallois ont battu les Sudaf d'un point à la dernière minute. On a battu les All Blacks. Trois équipes de l'hémisphère nord battent trois équipes. Est-ce que ça ne veut pas dire que le niveau de l'hémisphère nord est en train de monter?
Je n'en sais rien, peut-être, mais en fait, ça me paraît compliqué de penser que ça va être plus difficile de gagner le tournoi des Six Nations maintenant que de gagner la Coupe du Monde.
L'Angleterre, ça va être compliqué. Hein.
Ouais, mais parce qu'ils sont sublimes aussi. Enfin, bon,
et les Gallois chez eux, pas mal non plus.
Il n'y a que des grandes équipes.
Il y a de grandes équipes. Hein.
Très grandes
équipes. Jean Dorido.
Et les Italiens se démerdent bien.
Je suis admiratif de tant d'enthousiasme. C'est un match fabuleux, c'est vrai. Maintenant, en termes d'enjeu, c'est un fait. J'attends avec impatience les Six Nations. Parce que le niveau va être très, très relevé. C'est un fait. Bon, c'est toujours magnifique, François Black. Maintenant, traditionnellement, les Blacks craignent la France. Parce que c'est vrai qu'on réussit.
Depuis 12 ans, on n'avait plus gagné quand même.
Certes, mais enfin, il est quand même assez fréquent qu'on réussisse à faire la surprise comme ça. Et là, c'est vrai que c'était un match sans enjeu particulier. Il y aura le championnat du monde dans deux ans. Et puis c'est vrai, les Six Nations là, qui arrivent, là, ça va être vraiment intéressant. Et surtout de savoir si une équipe est capable de faire le grand chelem. Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui sort vraiment du lot de cet
hémisphère nord ? On va avoir un tournoi exceptionnel en 2022. Alors ça commence début février, mais ça va être
top.
Ne soyons pas, attendons.
Il y aura des grands matchs, ça c'est sûr.
Cette équipe, elle m'a réjoui parce que c'est ce qu'on se disait avec Philippe et avec vous. Ce qui est ennuyeux avec les Français, c'est qu'ils sont inégaux.
Oui.
C'est exactement ce que vous dites.
Mais
Philippe.
Regarde, les All Blacks n'ont jamais été battus deux fois de suite.
Ça leur est déjà arrivé.
Non, mais là, c'est rarissime.
Coupe du Monde 99, demi-finale et match de classement.
Non, mais je suis d'accord.
94, tournée de l'équipe de France. Absolument.
Ouais, vous êtes sûr?
Absolument. On les bat 43-31 en demi-finale, match de classement. Ils perdent, je crois, 20-18 contre la
France. Je ne suis pas sûr de ça.
On parie quoi, Philippe Bilger?
Ils sont faibles. Ils sont absolument faibles en ce moment. Ça n'enlève rien à notre victoire, mais soyons clairs, il faut arrêter de penser qu'on a gagné la Coupe du Monde. C'était un match préparatoire et les Blacks vont se refaire. Voilà, ça reste quand même les plus grands joueurs du monde.
Je peux vous présenter. Oui, Jean Dorido.
Aka y croire.
Qu'est-ce que c'est beau, leur Aka.
Je vais vous faire une confidence.
Le respect du. Blague à part, hein, franchement, la classe du. Quand on va parler du foot, là, la classe du public de rugby. Qui respecte le Aka, 80 000 personnes. On entend les mouches voler, mais c'est sublime, ça.
Kamateka,
ça fait peur. Non,
absolument.
C'est hyper effrayant.
Alors, excusez-moi les vraies voix, je vais vous présenter mes excuses. Je vous ai appelé Djoko, Nadal et Federer, c'est ce que vous êtes en fait.
Vas-y, dis-moi.
Vous êtes Dupont, Ntamack et Jaminet. Ça vous va mieux?
Moi, je veux bien être Jaminet.
Hein. Moi, j'accepte d'être Dupont.
Bon, vous voyez,
ça va être un plaisir. Ça
les vraies vrai voix à 17h14, à 17h30.
En plus, il est ultra sympa, Dupont.
Et Jaminet est très sympa aussi. Ouais. Il se la prend pas à la tête et Ntamack.
Je ne peux pas dire qu'Ntamack est très sympa.
Moi, j'ai déjà eu son père qui est très sympa. Milou, qui avait joué contre les Blacks en 94, d'ailleurs.
Grand joueur, Emile Ntamack.
Immense joueur.
À 17h30, seul,
dans le premier débat,
incident au LOM. Qui
moi,
faut-il
j'ai été en
sanctionner
rapport avec Vincent Clerc. Ah bah alors, oui, arrêtez. Bah,
super joueur et gars super sympa.
Ouais. Il
qui faut-il sanctionner
fait
s'il vous plaît,
non, les, non, bah
le club par une amende, le public par huis clos, l'équipe par retrait de points et le lanceur de bouteille. Vous êtes plus de la moitié à dire le lanceur de bouteille. On se retrouve dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Melvin Jaminet.
C'est moi,
alias
Melvin
Françoise Degois.
Oh, j'adore. Attends, excuse-moi, je me concentre.
Antoine Dupont, alias Philippe Bilger.
Voilà. C'est ça.
Et Romain Ntamack, alias Jean Dorido.
Vous servir.
C'est l'heure du tour de
et
table
toi,
de l'actualité.
Toi, t'es Galtier, bien sûr.
Oh bah tiens, ah bah, j'accepte.
Jean a toujours été un homme d'ouverture.
Ah bah c'est clair.
Merci de le rappeler, Philippe.
Ah bah ça c'est
plaisir.
Pas une demi-blague.
Non mais qu'est-ce qu'il a, Philippe Bilger, aujourd'hui? Non mais ça
ah bah, il a
la Davidite. Oh là là, ça s'attrape. Il a commencé ce matin. Voilà. Il a commencé ce matin les jeux de mots débiles en SMS. Je dis ça, je dis rien, hein, Philippe David.
Oui, mais c'était une communication privée. Pour les jeux de mots débiles, c'était privé. Allez, ça vous dit un tour de table de l'actualité?
Allez, on est parti.
C'est parti.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon?
Vous causez de quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table
de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait parler du débat de LR hier soir. Pour faire une métaphore rugbystique, c'était plutôt les 5 de devant ou les 5 de derrière?
C'était les 5 de devant.
Donc pilier, talonneur, pilier, les deuxièmes.
Voilà, et j'ai trouvé que dans les 3 soirées des Républicains, il m'a semblé que c'était la meilleure. Je ne parle pas des animatrices, mais je parle de la manière dont on a pu un peu élargir le débat. C'est-à-dire qu'on a bien sûr parlé de sécurité, d'immigration, mais on a un peu parlé de culture, on a un peu parlé aussi de l'emploi, et évidemment...
Et on peut parler dans le micro aussi.
On a parlé de l'argent, on a parlé... Alors tout ça, on ne l'a pas approfondi, mais j'ai trouvé un petit peu désagréable les critiques des analystes politiques à la fin qui ont dit mais ces politiques n'ont pas abordé l'essentiel et par exemple la politique internationale. Mais à mon sens d'abord ils auraient pu comprendre que les débats DLR sont un exercice à la fois libre, bien sûr, puisqu'il y a eu de l'interaction, mais contraint, puisqu'ils répondent à des questions, et qu'ensuite la campagne présidentielle permettra à ceux ou à cette candidate de choisir les thèmes qu'il développera, et évidemment, il tentera d'appréhender avec plénitude tout ce qui touche la France et le monde. Voilà.
Françoise Degois.
Alors, moi, je suis d'accord avec Philippe. Il n'est pas payé en retour, ce débat, parce que c'est celui qui est le moins suivi. Il est suivi par 600 000 personnes, alors que les deux LCI, LCI. Est-ce qu'il faut voir dans cette dégradation de l'audience? Parce que le premier débat a été suivi de façon incroyable, 850 000. Après, le deuxième débat a un peu baissé en termes d'audience, et le troisième, il baisse carrément. On passe de 850 000 à 600 000 hier soir sur CNews. Moi, je crois qu'il faut juste y voir une erreur de programmation. Je pense que une erreur de programmer le dimanche ce genre de débat. J'espère que c'est pas un manque d'appétence, mais je ne crois pas, parce que sinon ça serait corrélé avec la participation. Et comme ils ont quasiment doublé leur nombre d'adhésions pour que les gens participent, je crois pas. Je suis d'accord avec Philippe, en tout cas pour dire que c'est le moment des Républicains et que je trouve qu'ils utilisent bien ce moment. Moi, j'ai bien aimé hier le débat, j'ai bien aimé qu'ils parlent d'autre chose. Je suis pas bégueule, au bout d'un moment, on devient un peu barjot de rester coincé sur l'immigration. 112 minutes sur l'immigration, on s'en fout. Hier, c'était plus aéré, plus aérien. Et je pense que la chute d'audience n'est pas liée au manque d'appétence. C'est vraiment lié à la faute de programmation des deux chaînes.
Jean Dorido.
Oui, je crois qu'effectivement, il y a quand même un phénomène d'usure. Alors ça, c'est vrai pour le débat interne aux Républicains, puisqu'il n'y a que les adhérents qui votent là, pour ce congrès. Et puis, alors, à titre personnel, je trouve que c'est vrai aussi un peu pour la campagne en général. C'est démarré quand même très, très fort, vraiment depuis le fond du cours. Et les élections, c'est en avril seulement. Et il va sûrement y avoir plusieurs temps, j'imagine, dans cette pré-campagne suivie d'une campagne. Et on va avoir besoin de respiration, parce que là, c'est démarré vraiment en sprint.
Et ça s'efface derrière le Covid, hein, surtout. Là,
mais en plus, il y a d'autres préoccupations, la cinquième vague, etc.
Ce que vous dites est très juste, mais il me semble que ça vient du fait qu'Éric Zemmour nous masque la réalité, c'est-à-dire que lui, d'une certaine manière, il a déjà tout dit. Alors, et je pense que lorsqu'il devient candidat, contrairement à ce qu'il espère, où il dit « je vais monter »,
il va y avoir un côté soufflé qui retombe, ça c'est à prévoir.
Il est
en train de se chevénementiser, si on repense à 2002.
Mais vous avez raison, c'est ce qui donne le sentiment qu'on parle beaucoup depuis...
Ça a démarré plein pot, matin, midi et soir.
Non mais je voulais juste dire aussi que les préoccupations sont en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous interrogez les gens en disant le thème de la campagne, qui va être président et comment on passe Noël, est-ce qu'il y a des restrictions, vous savez très bien que là, l'obsession maintenant des gens redevient le Covid. Et j'en veux un peu quand même au gouvernement et même aux chaînes info dont je fais partie. On ne peut pas dramatiser, faire de la dramaturgie en permanence. On est sur 19 000 cas, oui, mais les réas ne bougent pas, les hôpitaux ne bougent pas. Mais n'empêche que ça réintroduit de l'angoisse dans la tête des gens et c'est assez impardonnable.
Votre tour de table, ma chère Françoise, c'est pour parler de Peng Shuai.
Oui, alors Peng Shuai, incroyable. Je pense que la Chine ne s'attendait absolument pas à une réaction pareille, en réalité.
Alors, rappel, c'est la tenniswoman qui a disparu après avoir accusé un haut dignitaire du régime de
l'avoir violé, le vice-président. Autrement dire, vous touchez au sein du sein, là, quand vous touchez à l'appareil du comité central. Voilà, elle a commis l'irréparable. Mais je pense que les Chinois ne s'attendaient pas à une telle réaction. Ils se disaient, finalement, entre les intérêts particuliers, et les intérêts sportifs, l'argent, par exemple, que génère le tournoi de Shanghai et Peng Shuai, eh bien, le tennis va se coucher. Mais le tennis, c'est pas couché. Et c'est sidérant de voir que les plus grands joueurs, les légendes, Federer, Nadal...
Chris Evert, pour les vedettes des années 70.
Chris Evert, qui est quand 80. Même, je veux dire, Martina Navratilova.
70-80.
Nous avons également Serena Williams, Djoko. C'est incroyable. Dans une unanimité inimaginable, parce que ce sont des gens aussi qui ont des intérêts financiers dans tous les tournois, eh bien, tout le monde a dit où est Peng Shuai. On veut qu'elle soit libérée, on veut avoir de ses nouvelles, j'espère qu'elle va bien, Nadal et Federer ont fait un communiqué, la WTA envisage même d'annuler
tous les... C'est l'association de tennis professionnel féminine.
Femmes, voilà, menace même d'annuler le tournoi de Shanghai, des tournois qui rapportent beaucoup d'argent au circuit aux joueurs. Jamais je n'ai le souvenir d'avoir une telle solidarité dans un corps comme ça, et dans un sport, pour une joueuse. Et je crois vraiment, et je le dis pas parce que je suis naïve, il me semble que, en tout cas, les autorités chinoises sont un peu désarçonnées de cette réaction si forte, s'attendaient absolument pas à ça, une réaction si puissante et si unanime qu'ils ont été obligés tout de suite de la remontrer, de montrer des images dont on ne sait pas si elles sont authentiques ou pas. Enfin, en tout cas, quelle est leur date, c'est ça le plus important.
C'est ça, oui.
Mais quand même, c'est puissant.
Philippe Bilger.
Non, mais rien à ajouter à ce que vient de dire
ça
François.
Ça vous a pas étonné de voir toutes les stars
prendre... Je n'avais pas suivi ça, objectivement. Je ne savais pas qu'il y avait eu cet unanimisme de la part de toutes les
gloires. C'est merveilleux.
Jean Dorido, c'est vrai qu'on a même retrouvé des stars d'il y a 50 ans. Chris Evert, Martina Navratilova.
Mais qui nous ont fait vibrer.
Les matchs Evert-Navratilova, c'était fabuleux.
C'était sublime.
Oui, non, alors la mobilisation internationale est admirable. Maintenant, ce qui fait froid dans le dos, c'est de voir qu'une grande puissance, une immense puissance comme la Chine, qui est vraiment la puissance, on va dire, il y a un nouveau monde bipolaire aujourd'hui qui se crée entre USA et Chine, de voir que cette puissance est une dictature qui pratique encore le droit de cuissage et un dirigeant. Nous, on voit à quel point on a eu cette vague depuis le hashtag MeToo, à quel point quand même il y a un progrès qui va quand même dans le bon sens. et qu'aujourd'hui, voilà, les affaires de viol sortent et sont dénoncées, et il y a quand même une capacité à entendre ça, et là, on a quand même une puissance où il y a le droit de cuissage, un dirigeant viole la fille, c'est la double peine, non seulement il la viole, mais en plus, elle n'a même pas le droit de le dénoncer, elle disparaît du jour au lendemain.
Non, justement, c'est effectivement, ça, le drame, il est là. Oui. C'est pas que le droit de puissage, Jean, c'est le droit de disparition. Partout. Il est partout. Vous êtes capable, il y a une très grande chanteuse, il y a quelques mois, qui a disparu pendant 2 mois, Jack Ma, le PDG d'Alibaba, le fondateur d'Alibaba.
Jack Ma a disparu, moi,
bien sûr.
Il a disparu pendant 3 mois, il a disparu des radars. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont enfermés en camp? On n'en sait rien.
Nous sommes bien d'accord, c'est ça qui fait froid dans le dos, c'est qu'on a cette puissance inouïe qui est vraiment une dictature, j'ai envie de dire, à l'ancienne, comme on pourrait espérer que ça n'existe plus.
On pensait que ça serait que ça deviendrait une démocrature, mais en réalité, on se rend compte que ça se durcit avec Xi Jinping.
Et c'est même très hard, et voilà, Xi Jinping nous l'a refait à l'ancienne, il est en train de se remahoutiser.
Les vraies voix, 17h27, dans
quelques
instants.
Pourquoi est-ce que vous nous coupez la parole? On était en train de discuter entre nous. Et alors?
Dans quelques instants, votre premier débat. Incident au LOM, qui faut-il sanctionner? Et bien, pour le moment, c'est le lanceur de bouteilles avant tout, 55,7%. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On va en parler avec Pierre Boubi, ancien footballeur professionnel et consultant foot sur la chaîne L'Équipe.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
L'individu a été interpellé. Il s'agit d'un individu qui n'avait rien à faire ici, puisqu'il n'est même pas abonné.
On voit cette image. Oh, la bouteille.
La première décision a été de pouvoir reprendre le match.
Le match va reprendre, mais au premier incident, dès qu'il se passe quelque chose, il sera arrêté définitivement.
Moi, je pense qu'il fallait marquer le coup ce soir et arrêter le match. On ne peut pas tolérer l'agression d'un joueur comme ça.
L'arbitre a décidé de ne pas reprendre la rencontre, considérant que la sécurité des joueurs n'était pas assurée.
Mais à un moment donné, c'est quand même la 6e fois, en l'occurrence, la 6e fois arrive ici. Je pense qu'il fallait marquer le coup.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Vous avez reconnu les voix de Jean-Michel Aulas et de Thierry Henry. On peut affirmer que l'exception française règne dans le football et pour le pire, puisque le match OL-OM a été arrêté hier soir après 4 minutes de jeu, après que Dimitri Payet eut reçu une bouteille pleine sur l'arrière du crâne. Un énième incident après ceux de Montpellier-Marseille, où Valentin Rongier avait eu la lèvre ouverte par un autre jet de bouteille. Après Nice-Marseille, où le terrain avait été envahi, des joueurs marseillais frappés. Après l'envahissement du terrain à Lens à la mi-temps de Lens-Lille. Après l'envahissement du terrain à Saint-Étienne avant le match contre Angers. Dans tous les cas, les sanctions prononcées par la Ligue avaient été, à mon avis, franchement légères. D'où notre premier débat. Qui faut-il sanctionner? Eh bien, pour le moment, vous êtes majoritaire, le lanceur de bouteilles à 56,7%, 20,1% pour l'équipe avec des retraits de points, 17,5% pour le public par des huis clos et 6,2% le club par une amende. Avec nous, Pierre Boubi, ancien footballeur professionnel et consultant foot sur la chaîne L'Équipe. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Quand on voit tous ces incidents depuis le début de la saison, c'est un inventaire à la Prévert, Pierre Boubi. On se dit finalement qu'on est la honte du football en Europe.
Bon ben je pense qu'on n'a pas besoin de regarder bien loin. Je pense que les Français déjà ont honte de ce qui s'est passé encore hier. Sans parler de la presse étrangère, je pense qu'on est largement conscient de la barrière qui a été franchie hier soir. C'est complètement fou. Moi, j'étais atterré devant ma télé parce qu'on se demande justement... Moi, j'étais joueur de foot professionnel et comment est-ce qu'on peut travailler et donner du plaisir aux gens dans des conditions qui sont... déplorable quoi, déplorable. Ça se répète depuis le début de l'année. On peut parler de l'après-Covid ou je sais pas quoi. Il y a un gros problème d'éducation aussi des gens. Il va falloir que tout le monde se remette en question et il y a un gros travail de fond à faire avec justement tous les animateurs, que ce soit l'État, que ce soit les dirigeants de clubs ou même la LFP. Donc
la Ligue de football professionnel.
Ouais, bien sûr. On a regardé encore hier où justement c'était le moyen de prendre un peu de hauteur pour les présidents, surtout Monsieur Aulas, pour dire justement qu'il fallait même pas parler du retrait de points de football. C'était plus le moment de parler de football. Là, c'était le moment de parler d'une agression d'un joueur qui n'était pas capable de reprendre le jeu parce qu'il était choqué émotionnellement. Ce que je peux comprendre, parce que nous, on voit tous que c'est une bouteille, mais si c'est un couteau ou un autre truc dans la tête, on ne sait pas ce qui arrive. Donc, il y a des vraies et bonnes questions à se poser, et j'espère qu'il y aura un avant et un après.
Philippe Bilger.
Pierre, chacun a son idée sur la sanction principale. Mais je voudrais vous demander, est-ce qu'à votre avis, on ne pourrait pas concevoir au moins de la part de la direction des clubs, des plus grands, là où ça se passe, PSG, Marseille, il y a encore un
Lyon,
absolument.
Monaco.
Une sorte de séance régulière de pédagogie, d'injonction pour tous les... Est-ce qu'on connaît un peu les spectateurs qui viennent pour leur expliquer les règles de savoir-vivre et de dire que si ça continue comme ça, eh bien le divertissement qu'est le football sera non seulement gangrené et pourri, mais peut-être un jour devra cesser de plaire au public. Je suis frappé de voir que personne ne prend la peine d'avoir cette pédagogie tout de même. On peut apprendre la bonne éducation aux gens.
Pierre Boubi.
Ouais, mais on peut difficilement. C'est comme gérer un événement. Je veux dire, il y a toujours des débordements. Il y a toujours des gens qui veulent pas se plier. Je pense que déjà il y a eu une mauvaise réponse. Après Nice-Marseille, je pense que moi mon avis c'est qu'il faut taper fort en fait. Faut taper fort sur l'individu parce que l'individu n'a pas peur étant donné que c'est un système où c'est des effets individuels mais en fait il n'y a pas de dénonciation et on peut comparer un petit peu avec ce qui se passait dans les années 80, fin des années 80 en Angleterre avec Margaret Thatcher qui avait tout pris à bras le corps et qui avait résolu le problème des hooligans enfin d'une main de maître.
Là, je pense que voilà,
il faut partir sur du pénal, il faut partir sur de la grosse amende, il faut faire un exemple. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut faire un exemple et montrer à tout le monde que voilà ce qui se passe quand on fait ce genre de conneries. Parce que moi, ça me rend, enfin, j'étais en colère hier, je suis fou de rage parce que faut comprendre un petit peu dans quelle atmosphère le joueur de foot est actuellement et c'est ce qu'il faut défendre au lieu de parler de le président qui a dit ça, l'autre qui défend sa paroisse, ça on s'en fout, c'est un autre débat et à la limite c'est vraiment pas l'important.
Françoise Degois.
Oui, moi je pense aussi aux dégâts psychologiques parce que après on peut dire, j'entendais des gens qui disaient ouais il fait un peu du cinéma, Payet c'est hyper hyper angoissant ce qui lui est arrivé. Comment est-ce que vous voulez aller tirer des corners tranquillement après? Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu des filets de protection sur un grand stade aussi.
Il y en a plus.
Bah ouais, mais il faut en remettre probablement. Et moi je suis comme vous, Pierre, je suis pour la sanction, mais je suis pour l'interdiction à vie déjà de cette personne.
Bien
l'interdiction
sûr.
À vie. Et moi, je pense qu'il faut sanctionner, je suis d'accord avec Philippe Bilger, il faut que sanctionner les clubs. Je ne suis pas là où je diverge avec vous, Pierre, c'est que je pense que Aulas, Jean-Michel Aulas, ses déclarations ne font qu'aller dans le sens d'une forme de complaisance. En plus, on le voit mentir comme un arracheur de dents quand il dit on a pris la décision de reprendre.
Que l'arbitre voulait reprendre le match, alors que l'arbitre
ça n'est
n'a
pas
jamais
vrai.
Voulu.
L'arbitre n'a jamais voulu, c'est lui qui veut pour son business, etc.
Et qu'on a même fait dire au speaker du stade.
Voilà, il faut absolument que le match reprend. Finalement, il reprend pas, alors que c'est faux. Il faut changer la loi parce que les préfets n'ont pas l'autorisation. Enfin, la Ligue n'a pas l'autorisation d'agir. Il faut être hyper sévère sur le plan pénal. Il faut punir les clubs et le public. Moi, je pense qu'il faut quelque chose de collectif parce que c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, la chaîne de vertu, ça va être qu'à un moment donné, tous les staffs des équipes vont faire ce travail pédagogique dont parle Philippe Bilger et on dégage les brebis galeuses.
Pierre Boubi.
Non, mais il y a une grosse réflexion à mener. Après, il faut comprendre aussi que les clubs sont aussi démunis administrativement et au niveau juridique pour prendre des décisions. La LFP a un avis consultatif. Hier, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils ne comprenaient pas que ça prenne autant de temps. De toute façon, le gros problème, c'est que la préfecture dit que c'est un événement, donc c'est à l'événementiel de prendre en charge l'intérieur du stade.
Donc, Pierre, il faut une loi.
Non, mais bien sûr, mais il faut créer une loi. Il faut créer une loi et faire en sorte qu'en fait, l'État, le club et la LFP aient les mêmes décisions et le même pouvoir de décision, en fait. Parce que le club, la problématique, c'est qu'ils interpellent, ils donnent à la justice, et après la justice met à peu près un an et demi à traiter le dossier. Donc, la problématique, elle est là. Il faut créer une loi pour, déjà, l'interdiction de stade, elle existe déjà, le maximum c'est 3 mois.
Maintenant c'est avis, c'est tout.
Avis,
terminé.
Le mec, encore l'interdiction de stade, c'est important dans les faits, mais je pense que
Bah, si, ça calme les
l'exemple,
autres.
Hein, le mec, ah oui, le ça mec calme acheté, les autres. Le mec, hein. Acheté, ouais, mais le mec qui a acheté la bouteille hier, quand il va se retrouver à payer 100 000 euros d'amende pour avoir jeté une bouteille, ah bah, j'aimerais bien que ceux qui jettent des chargeurs après vont réfléchir.
Dimitri Payet a porté plainte contre lui, et comme Dimitri Payet peut se payer un excellent avocat, à mon avis, il va manger épais.
Donc il va manger épais, mais il faut qu'il mange aussi sur l'interdiction, parce que ça, c'est le genre de truc, c'est une punition encore plus grave, je pense, que l'argent pour les fous de foot. Et ça, et non, ça fait réfléchir.
Le problème, c'est là que vous vous trompez, c'est que ce n'est pas des fous de foot, ces gens-là.
Non mais si, mais bien sûr.
Non, c'est pas des fous de foot,
Françoise. Moi, j'en sais rien.
Il est même pas, la personne n'est même pas abonnée au stade. Pour vous dire qu'en fait, ça veut dire que le mec ne vient même pas pour le foot. Il a décidé de se payer Payet cette soirée-là. Il y a d'autres vidéos qui tournent où justement il n'y a pas eu que ce jet de bouteille. La problématique, c'est que le capot et le responsable de sa tribune, donc le président de l'association des supporters, a déclaré, a fait un communiqué, a fait des réunions en interdisant catégoriquement et fermement le jet d'objets parce que justement le club peut perdre des points. Et le mec qui aime son club et qui aime son stade ne fait pas ce genre de truc. C'est un supporter.
Ça, c'est clair. Jean Dorido, d'un point de vue psychologique, vous qui êtes docteur en psychologie, ça vous inspire quoi? Vous avez 80 000 personnes. Moi, j'ai fait plein de matchs de foot, de rugby. À la fin des matchs de rugby, même si on a perdu, on boit un coup à la buvette du stade qui reste ouverte et qui vend de l'alcool, soit dit en passant, régulièrement, notamment en Coupe d'Europe, avec les supporters adverses. Au foot, on est obligé d'avoir 300 CRS pour pas que les gens s'entretuent. Comment expliquer ça?
Historiquement, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il a toujours été coutumier de dire que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen et que le football, c'est l'inverse. Oui. Et c'est un fait, bon, je le vois là, ça déchaîne les passions, j'en en parlais de 100 000 euros d'amende. Je crois que, bon, d'abord, c'est très triste, effectivement. Toutefois, c'est vrai que c'est toujours la même problématique quand on se demande comment répondre à la violence entre prévention et répression. Bon, là, j'entends qu'il y a vraiment une soif de répression à tout craint. Maintenant, peut-être on a les supporters qu'on mérite. Il y aura quand même une réflexion à mener, vous venez de le dire, Philippe David, sur cette violence dans le football quand même. Comment faire en sorte que ça s'arrête. Et puis, je vous entendais parler de cette tragédie du Wesel en 85, Philippe David, tout à l'heure. C'est un fait, je ne comprends pas ce qui a changé. Moi, quand je vois ça de ma porte, il fut un temps où tout le monde était fouillé avant d'aller au stade et il y avait interdiction de porter des bouteilles. Boissons étaient dans des verres en plastique. Tout le monde était fouillé. Il y avait effectivement des filets pour empêcher tout ça. Je ne comprends pas quand même. Je crois qu'il y a de l'argent quand même dans le football qui circule. C'est quand même pas grand-chose de mettre des filets.
Exactement.
C'est quand même pas grand-chose de se payer une sécurité pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de fumigène. Et là, régulièrement, on a des problèmes. Donc, oui, d'accord, bon, ben, réprimer, si vous voulez réprimer, d'accord. Mais enfin, il y a quand même une réflexion, me semble-t-il, de fond à mener pour faire en sorte, en termes de prévention, qu'on ne se retrouve pas devant des situations pareilles.
Pierre Boubi.
C'est les attitudes, c'est le problème. Vous me parlez de filet. Un filet ne va pas empêcher un briquet ou une clé ou.
En l'occurrence, c'est une bouteille, c'est pas un briquet.
De passer. Ouais, mais en l'occurrence, c'est une bouteille. Mais le problème, c'est qu'heureusement que c'est une bouteille. Si c'est une pile ou un briquet et qu'il la prend dans l'arcade ou je sais pas.
Rongier a été ouvert par une bouteille, lors de Montpellier-Marseille.
Qu'est-ce que vous avez contre les filets? Les filets, c'était très bien, franchement. C'est quoi votre problème avec les filets?
C'est une question d'époque. À l'époque, les filets. Mais non, mais vous me parlez de filets. On a enlevé les filets, filets ou pas. De toute façon, il y a des jets. Ce qu'il faut interdire, c'est pas qu'est-ce qui est jeté, arrêter de jeter.
Oui. Stop, on s'arrête là. Je pose une question. Oui. Je voudrais comprendre quel est le blocage psychologique de ces mesdames et messieurs du foot à l'idée de remettre des filets.
Vous permettez, je vais donner la parole à Pierre Boubi, mais je pense que je lui réponds la même chose que moi. J'ai vu des matchs en Espagne, il n'y a pas de filet parce que les gens jettent rien. Au Portugal, j'ai vu, il n'y a pas de filet. En Allemagne, j'étais à Dortmund, il n'y a pas de filet. Il n'y a qu'en France où il y a besoin de filets. Ça veut dire que les Français sont
en Italie, par exemple, je suis désolé, mais il y a des filets en Italie.
Moi, je suis allé à San Siro, j'ai jamais vu de filet à San Siro.
San Siro, bien sûr, mais vous allez à Turin, vous allez à Sassuolo, vous avez des filets, parce que voilà, il y a aussi deux manières de faire. On peut aussi.
Mais ça, c'est de la paresse.
Pierre Boubi.
Ça, c'est juste. C'est juste de la paresse et d'essayer de boucher un truc, mettre un pansement. Mais ça ne me gêne pas du tout. On peut les mettre, les filets, c'est pas le problème. Mais qu'on mette des filets, ça ne va pas résoudre le problème.
Non, mais j'ai pas dit. Mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai pas dit ça. Mais j'ai dit, mais il faut appuyer sur toutes les touches du piano. Filet, prévention, sanction, et voilà. Depuis ce matin, depuis hier, j'entends que des mecs qui disent, ah, mais les filets, c'est horrible, c'est l'ancien monde. Mais non, bah écoutez, non.
Non, mais pour moi, mettre des filets, c'est considéré qu'on a perdu, c'est un échec.
Pierre, au cas où on ne parviendrait pas à interdire les jets, et c'est en effet la prohibition fondamentale, les filets constituent tout de même quelque chose qui atténuera le mal. C'est tout.
Mais je suis pas contre du tout. C'est pas le problème. On peut faire ça de manière temporaire. Il y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas mettre des filets et le problème est résolu. Ce qu'il faut faire,
il
y a un gros travail. Il y a un gros travail à faire entre les pouvoirs publics, les clubs et la LFP.
Mais Pierre Boubi, je voudrais vous poser une question à faire réagir les vraies voix. Quand vous voyez après les incidents de Nice-Marseille, où les joueurs marseillais se prennent des bouteilles, il y a deux joueurs marseillais qui en ont marre, c'est Payet et Alvaro, un renvoie une bouteille et l'autre, je crois, a mis une gifle à un supporter qui rentrait sur le terrain, soit dit en passant, le voyou, pas le supporter, parce que là, c'est injurier les supporters, qui descend sur le terrain alors qu'il n'a rien à y faire. Quand vous voyez les présidents Rivière à Nice, ou encore hier soir Rolas à Lyon, qui pratiquement prennent la défense que il fait un peu de cinéma, il a juste pris une bouteille. Est-ce que vous croyez pas que des présidents comme ça sont de véritables pyromanes et qu'il faudrait les sanctionner?
Il faudrait les sanctionner. Je suis pas pour. Je comprends totalement.
C'est quand même les patrons.
Non, mais bien sûr. Mais je suis complètement de votre avis parce que je suis devant ma télé et que je vois le truc d'un œil extérieur. Je pense que quand on est président de club, on n'a pas la même réflexion sur le cas. Hier, ils sont venus parler. Je pense que c'est déjà une bonne chose. C'est pas facile et j'ai pas envie de leur en tenir rigueur au niveau je comprends que ce soit choquant. Moi, j'étais choqué hier, mais je comprends que ce soit difficile même pour des gens comme eux de prendre du recul. Parce que justement, ils sont dans la performance, ils sont dans la prestation et dans le...
C'est toujours la même question, à qui profite le crime? C'est-à-dire que dans ces cas-là, la moindre ambiguïté, quand même, elle est coupable, parce que c'est vrai que ça fait monter un peu la mayonnaise aussi, le président de club qui ne condamne pas fermement. On voit parfois ce genre de posture sur d'autres sujets dramatiques.
Et c'est vrai que
j'entends parler de 100 000 euros d'amende.
Non, c'était juste un chiffre donné à la cantonade par Pierre Boubi.
Pas très raisonnable. Maintenant, c'est vrai que quitte à prendre de l'argent, il faut se demander
c'est pas raisonnable de se prendre une bouteille sur la tête pendant qu'on joue au foot.
À qui prendre de l'argent pour que les choses bougent? Parce que j'ai dans l'idée, c'est mon sentiment, mon intuition, que ce sont de pauvres gens qui se livrent à la violence comme ça dans les stades. Et donc, si vous voulez, vous allez disqualifier socialement quelqu'un en lui prenant une somme astronomique ou même en le jetant en prison. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Rien ne changera sur le fond. Donc on peut bien sûr, on peut se jeter comme ça sur des pauvres gens qui ont un problème manifestement avec la violence.
Pierre Boubi.
Des pauvres gens, moi je sais pas ce que fait ce monsieur comme métier, je trouve pas normal qu'il prenne 100 000 euros d'amende, mais je trouve pas normal que pour tirer un corner on se prend une bouteille en pleine tête.
Quand vous regardez ce qui se passe dans les problèmes de violence, vous constatez, monsieur Pierre Boubi, je suis psychologue, je vous donne mon métier, quand vous regardez ce qui se passe dans les phénomènes de violence, qu'elles soient intrafamiliales, qu'elles soient dans les stades ou qu'elles soient dans les cités ou dans les campagne, ce sont des personnes qui socialement souvent sont dans une grande misère, dans une grande précarité, et personne n'est violent pour le plaisir. Il y a quelques
Violents pour le plaisir, ça existe.
J'aimerais terminer mon propos si vous voulez bien. Il y a quelques psychopathes qui se promènent dans la nature, c'est un fait. Pour autant, il y a des causes psychosociales à la violence qui concernent beaucoup les pauvres gens, et ça n'est pas d'aller prendre de l'argent ou de mettre ces pauvres gens en prison. qui va régler le problème.
Non, mais moi, Jean, moi, je ne suis pas du tout sur l'histoire de la prison de l'amende. Je suis, moi, pour le truc qui punit l'interdiction de stade à vie et puis une condamnation, mais évidemment pas aggraver le cas pour aller en prison. Mais moi, je suis sidéré quand même. Pardonnez-moi, Pierre, c'est votre milieu et probablement que vous comprenez mieux que moi. Je trouve ça dingue de ne pas condamner l'attitude des présidents de club. Ils doivent avoir une hauteur. Hier, Jean-Michel Aulas n'a fait que rajouter, pour moi,
eux, ils sont puissants, ils ont de l'argent. Alors, c'est dur de les critiquer, de dire qu'il faut les condamner à la radio. C'est beaucoup plus difficile que des pauvres gens.
Merci beaucoup. On arrive au bout, on a dépassé le temps. Merci, Pierre Boubi, ancien footballeur professionnel, consultant foot sur la chaîne L'Équipe. On aurait pu parler encore au moins une demi-heure. Verdict sur Twitter. Qui faut-il sanctionner ? Vous êtes 6% à dire le club par une amende, 17,5% le public par huis clos, 19,2% l'équipe par des retraits de points et 57,3% pour le lanceur de bouteilles. Ça vous dirait une chronique présidentielle avec Jean-Marie Bordry ?
Ah oui,
c'est tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Jean-Marie Bordry.
Quel honneur, c'est la première fois qu'on m'accueille comme ça dans les vraies voix.
Et vous revenez, bon cher Jean-Marie, sur une séquence présidentielle qui rappelle un grand classique du cinéma français, pour le meilleur comme pour le pire.
Est-ce que cette musique vous rappelle un film ? Est-ce que quelqu'un là...
Le tonton flingueur.
Voilà, merci Jean Dorido. C'est un grand classique de Lautner et... de dialogue d'Audiard, bien sûr, absolument, les tontons flingueurs pour le meilleur et pour le pire, disait Philippe David. Cette histoire présidentielle dont je vais vous parler commence avec celui qui, il y a quelques jours, a voulu faire une blague à des journalistes en les braquant pour de faux avec une arme non chargée. C'était...
Tiens, Éric Zemmour.
Bien sûr, Éric Zemmour, effectivement. Et aussi, un chef de parti qui est connu depuis peu pour être un collectionneur d'armes et qui est centriste. Est-ce que vous l'avez ?
Lagarde,
Jean-Christophe Lagarde.
Dès qu'il s'agit de centrisme.
Il faudrait vraiment que vous commenciez à suivre l'actualité. C'est formidable ce que vous faites. Voilà, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui était ce week-end l'invité de nos confrères de France Info. Il s'est lancé dans une envolée lyrique au sujet d'Éric Zemmour, qui a fait tant de bruit qu'elle est arrivée jusqu'ici sur Sud Radio.
Se foutre du monde au point de dire « je suis un RPR ». Mais monsieur Zemmour, si monsieur Pasqua était là, il te filerait une balle dans la tête.
Grande classe, effectivement. Bravo. Beaucoup de pacifisme. Alors, vous imaginez bien que le scandale a été immédiat sur les réseaux sociaux, que de nombreux internautes ont dénoncé un appel au meurtre d'Éric Zemmour, au point que Jean-Christophe Lagarde, d'ailleurs, il faut le souligner, après quelques heures, s'est excusé. Je cite, je regrette mon expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour. La violence doit toujours être bannie du débat politique, mea culpa. Bon, vous croyez que ça a suffi ou pas ?
Ah, pour moi, je suis de l'avis d'Éric Ciotti hier, je n'excuse rien, parce qu'il y en a assez, tout de même Jean-Marie. La grande mode aujourd'hui, et depuis des années, on ne réfléchit pas quand on parle, quand on fait un tweet, quand on écrit, on se dit « je suis peinard, demain je m'excuserai ». Non.
Eh bien, vous faisiez justement allusion à l'avocat bénévole d'Éric Ciotti qui s'est exprimé dans le débat de la droite.
On appelle à prononcer une fatwa, une balle dans la tête contre quelqu'un qui est un journaliste. Non, je ne l'excuse pas. C'est inexcusable et il doit y avoir des poursuites judiciaires.
Ça méritait des poursuites ? Tiens, je demande au magistrat, en un mot.
Il y a tant de poursuites qui ne sont pas engagées que je dirais que peut-être celle-là, avec l'indignation légitime qu'elle suscite, devrait presque suffire, de mon point de vue.
Il faut quand même souligner qu'Éric Zemmour, fidèle aussi à sa phobie procédurière, n'a pas porté l'affaire devant la justice, ça c'est important.
Et il ne l'a pas ménagé.
Il ne l'a pas ménagé, j'allais y venir les amis. Vous qui aimez bien les mauvaises langues, on peut quand même citer cette longue réponse d'Éric Zemmour à Jean-Christophe Lagarde. Ça commence par un ton très gentil, ça commence par « cher Jean-Christophe ». C'est toujours mauvais signe quand une lettre commence comme ça. Ensuite il accélère, je cite « vous êtes un mélange, tu es un mélange de Bellatar et de Bisounours, bref, un vrai centriste ». Bellatar et Bisounours, quand même.
Ça vaut pas, franchement, ça vaut pas les tontons flingueurs, c'est que dalle. C'est rien c'est du tout, gentil. C'est minable. Non, c'est pas gentil, c'est complètement à côté.
Cela dit, Éric Zemmour continue. Malgré ton mea culpa de pacotille, je ne t'excuse pas, Françoise Degois, parce que, dit Éric Zemmour, en présentant Charles Pasqua comme mon ennemi, Jean-Christophe, tu portes atteinte à la profonde amitié que j'ai pour cet homme unique. Et là,
c'est faux.
Justement, ça méritait un arbitrage vidéo, Françoise de Gouin.
Parce que Charles Pasqua a dit des choses sur Éric Zemmour de son vivant qui étaient très dures pour Éric Zemmour.
En tout cas, à la fin. Parce que c'est vrai, Françoise, que Pasqua et Zemmour étaient souverainistes et qu'ils sont connus. Mais pour LCI, il faut le souligner, le journaliste Paul Larouturou a retrouvé une archive de Pasqua qui, un peu avant sa mort, parlait d'Éric Zemmour chez nos confrères d'Europe 1.
Moi, j'avais beaucoup d'amitié pour Zemmour. Je dois dire que cette amitié, elle est un peu écornée.
Alors pourquoi cette amitié de Pasqua pour Zemmour s'était un peu écornée? Parce que...
Si M. Zemmour pense que Pétain a protégé les Juifs de France et que Laval a empêché leur persécution, c'est qu'il ne connaît rien à la réalité des choses. Au lendemain de la guerre, un certain nombre de résistants se sont réunis et ont créé un club. J'ai appartenu à ce club des 22. Si quelqu'un était venu tenir le genre de propos comme Zemmour devant nous, je ne sais pas dans quel état il serait ressorti.
Il n'avait pas parlé de balles dans la tête.
Mais on n'est pas loin quand même, ça sentait la savate. Hein.
Oui, mais c'était Pasqua. Donc
c'était
Pasqua,
et justement, on y vient, c'était l'époque aussi où la politique était une affaire largement de tonton flingueur. On ne va pas faire passer Charles Pasqua pour un moine bouddhiste, effectivement.
Certainement pas.
Est-ce que ça justifie les propos de Jean-Christophe Lagarde? Non.
Non, pourquoi moi, hors de question. Non. Moi,
on est d'accord.
Je déteste Éric Zemmour. Je pense qu'en plus de ça, c'est un semeur de haine, que de toute façon, il est habité par une colère qui se déverse sur tout ce qui vaut. Mais il est impossible qu'un homme politique élu souhaite une balle dans la tête.
Exactement.
C'est pas possible, c'est pas acceptable. Et je pense qu'il faudrait aller à la, plainte, là, vraiment.
Et là, en tout cas, c'est la preuve que cette campagne présidentielle est extrêmement violente.
Juste pour dire quand même, on reste dans les tontons flingueurs. Entre Lagarde et Zemmour, c'est pratique de faire parler les morts. Parce que Charles Pasqua, il est mort. Et donc chacun, finalement, parle à sa place. Quoi. Donc laissons-le tranquille,
ce monsieur. Et pour conclure, Lagarde a été pris la main dans le sac en parlant de Pasqua. 17h58, les vraies voix.
Oh, le sac, Pasqua, service d'action civique.
Mais la main dans le sac, pourquoi?
Parce qu'il était pris la main dans le sac à dire une bêtise.
C'était un jeu de mots avec le service d'action civique qui était
un grave ordre du RP.
Les vraies voix, le deuxième débat, Pays-Bas, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Alors là, c'est une majorité brejnevienne. Vous êtes 95,4% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Les vraies voix sont de retour avec le président de l'Institut de la Parole, Philippe Bilger, auteur d'un excellent livre d'aphorismes qu'on qualifiera de bilgérien, comme il y a les aphorismes churchilliens.
Ouais.
Libre propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie.
C'est exact.
Vous l'avez entendu, la dernière éditorialiste de gauche du PAF.
Il n'y en a plus.
Ça s'arrose.
Vous aimez qu'on vous appelle comme ça.
C'est la vérité.
Françoise de Gouin, éditorialiste.
Avec une formation de journaliste politique, parce qu'il n'y en a plus, en fait. C'est désespérant.
Éditorialiste Sud Radio et LCI.
Tout à fait. Je voulais juste rappeler aux auditeurs qui ne vous ont pas encore regardé que je ne l'ai pas fait parce que c'est lundi matin, j'ai oublié.
Non, c'est lundi après-midi, quand même.
Parce que
18h08 le matin.
C'est une erreur.
Ça s'en dit long sur le rythme de vie de Françoise
Degois.
C'est
pas ça, c'est que le lundi matin, en fait, on a échangé des noms d'oiseaux, on a rigolé en texto, donc j'étais là-dessus. Je voulais juste dire que vous êtes toujours aussi torve, il faut quand même le dire.
Ben, voilà. Je suis arrivé à le caser hier au Scrabble.
J'ai vu ça.
Grâce
à vos comptes triples, ça peut payer.
J'ai même fait une photo, je l'ai envoyé.
Ça fait.
Non mais le V c'est 4 lettres, 4 points pardon.
4 points, oui, voilà.
Et je l'avais mis en mot compte double ou triple, ou lettre compte triple, quelque chose comme ça.
Non, c'est très bien, j'ai encore votre grille, vous voyez, ce type est fou au point de m'envoyer ses grilles de Scrabble.
C'est sympa le Scrabble.
Vous comprenez, c'est bien, moi aussi j'adore le Scrabble, mais enfin là on atteint des niveaux quand même stratosphériques, de folie en fait, vous voyez, de folie,
qui
de jeu
se ressemble, ça semble. Hein.
Je dois le dire, mais je ne suis pas torve, moi je suis fourbe, vous êtes torve.
Chacun son truc.
Je raconte sa fourbitude.
Et Jean Dorido, docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi à 18h30, notre grand débat. Pays-Bas, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Vous êtes 95,3% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix?
Non, pas du tout. Répondons encore. Non, ça va pas du tout.
Et bien pour que ça aille bien, c'est ce qu'on va faire.
Ouais.
Et bien on va se faire le tour de table de l'actualité de Jean Dorido.
Ah, très bien.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors oui, alors ce qui a retenu mon attention dans l'actualité, c'est pas très gai, hein, pardon. C'est vrai que c'est pas le top. Maintenant, c'est un fait. Ça vient du ministère de l'Intérieur. Les violences conjugales ont encore augmenté de 10% en 2020. Et c'est un vrai sujet. On n'en parlera jamais assez. Alors ce sont évidemment majoritairement des femmes qui en sont victimes à 87%. Pour autant, il faut rappeler qu'il y a aussi des hommes, voilà, qui sont l'objet de violences conjugales, même s'ils sont bien sûr très minoritaires. Et c'est l'occasion de rappeler, même si c'est enfoncé une porte ouverte, qu'il faut réagir tout de suite dès qu'il y a de la violence qui s'installe dans un couple, dans une famille. Il ne faut pas laisser passer ça et faire le nécessaire, se rendre le cas échéant à la police, parce qu'il y a des tiers qui existent, des services sociaux, des psychologues qui sont là pour aider justement les personnes à sortir de l'engrenage tragique de la violence, parce que c'est un vrai sujet, et ça ne compte pas, ces chiffres terribles ne comptent pas les féminicides qui arrivent encore en plus, donc la situation est compliquée.
Ouais, Françoise de Gois.
J'ai une question à poser à Jean, parce qu'il est psychologue et je trouve que c'est tout à fait adapté, parce que c'est ce problème, mais c'est un peu en parallèle. Est-ce que c'est un sentiment un peu au doigt mouillé, donc ça n'a aucune valeur, et j'aimerais votre point de vue à vous. Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train de vivre avec un retard la grande fracture psychologique du Covid ? Moi, j'ai le sentiment que les gens craquent maintenant. Alors, peut-être qu'ils craquent dans leur couple, mais qu'ils craquent en règle générale. Je vois beaucoup de cracking maintenant, alors que ça n'a pas craqué pendant le confinement.
Oui, Françoise, bien sûr, vous mettez le doigt sur un fait qui est tout à fait avéré. D'abord, ça, c'est observé depuis toujours, même chez les rats de laboratoire, quand vous traversez une épreuve stressante, épreuve difficile en termes de ressources psychiques, en fait, il y a effectivement un effet retard, c'est-à-dire que vous faites face sur le coup, et après, c'est le fameux relâchement, et c'est là qu'arrivent les états dépressifs, les états de stress post-traumatique.
Sont liés à quoi, d'après vous ? Parce que même les gens qui n'ont pas perdu de travail se retrouvent dans des souffrances existentielles.
C'est-à-dire que ça a été un stress absolument phénoménal. Ces confinements successifs, ça a été très bien documenté dans le monde entier, ça crée un stress très très fort, on sait que ça a augmenté mécaniquement la toxicomanie, ça a augmenté mécaniquement les troubles anxieux, ça a augmenté mécaniquement les dépressions. Et donc, effectivement, aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a bien des professionnels de santé qui parlent depuis longtemps de vagues psychologiques. On est en plein dans la vague psychologique avec, effectivement, des conséquences qui peuvent être absolument dramatiques, y compris des conséquences de passage à l'acte violent.
Philippe Bilger. Jean, est-ce qu'on peut vraiment guérir de la violence ?
Ça c'est quand même justement, on en parlait tout à l'heure, il y a des mesures éducatives, des mesures psychiques, des mesures justement médico-psychosociales qui existent. Les services sociaux, il faut le rappeler, font un travail énorme d'aide éducative, comme ça, en milieu ouvert. Ils sont aidés par des éducateurs, par des psychologues. Et bien sûr qu'il y a une dimension d'apprentissage en réalité. C'est-à-dire que bien souvent, le passage à l'acte, il arrive quand la personne n'est pas équipé pour médiatiser la situation de façon satisfaisante avec des mots, ou même le fait de partir, le fait de laisser retomber la pression, et on le sait bien d'ailleurs, vous êtes au courant, Philippe Bilger, il y a des mesures qui hélas ne sont pas toujours appliquées pour des marais violents par exemple, il y a une peine judiciaire qui est assortie justement de mesures sociaux et psycho-éducatives, parce qu'on a besoin justement d'apprendre à réguler ses pulsions violentes, et pour éviter les passages à l'acte, bien sûr.
Mais on a
encore un tout petit peu de temps.
Mais quand la violence, précisément, Jean, remplace l'absence de mots, est-ce qu'elle peut être guérie ?
Écoutez, alors là, après, vous savez, c'est toujours pareil, vous mettez un psy dans une pièce, vous avez déjà deux avis différents, parce que les savants se chamaillent. À titre personnel, j'aime le croire, oui, nous sommes quand même des animaux sociaux, et quiconque a deux bras, deux jambes et 23 paires de chromosomes, à peu près d'aplomb, oui, il est possible d'aider cette personne à guérir même de la violence.
Non, mais c'est passionnant. Moi, oui, parce que je pense que, je le redis, je le regrette, cette espèce d'hymne permanent à l'argent et aux sciences dures nous fait oublier que les sciences humaines et la compréhension de l'âme humaine, pour moi, c'est vraiment le trésor du XXIe siècle. On peut tout m'expliquer sur le CAC 40, je ne suis pas une naïve, une rêveuse, on peut m'expliquer tout sur le progrès économique, etc. Rien ne peut changer tant que nous ne progressons pas humainement, profondément. On a toujours moqué appliquer la devise de l'UNESCO, mais elle dit tout, c'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous devons construire, et pour ça, on peut pas y arriver tout seul. Et je trouve que cette façon, dans cette espèce de climat, et là vous serez peut-être d'accord avec moi, de start-up nation, d'émancipation par le travail, l'argent, l'entreprise qui fonctionne, etc., tout ça est écrasant, car je considère qu'on va à côté. La réalité de la vie, c'est d'absolument de promouvoir, pour moi, les sciences humaines, c'est le trésor du XXIe siècle nécessaire.
Voilà qui mérite les applaudissements de Jean Dorido.
Pas mieux.
Pas mieux.
C'est ça. Hein.
Et 18h15, ouais. Les vraies voix.
Sauf pour vous, parce que vous n'êtes pas tout à fait un être humain, en fait. Ouais, ouais,
D'ici quelques minutes, on va retrouver.
C'est un humain, c'est
oui, c'est ça. On va retrouver Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et auteur de Atlas des frontières, publié chez Autrement. Puisqu'en ce moment même se tient un colloque à l'Assemblée nationale sur l'Afghanistan, les talibans, leur idéologie, les défis qu'ils nous lancent, puisque ça fait 3 mois que Kaboul est tombé, et ça va être une interview absolument passionnante. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Il y a 3 mois, Kaboul tombait aux mains des talibans. Aujourd'hui a lieu un colloque à l'Assemblée nationale, colloque intitulé « Les talibans, leur idéologie et les défis qu'ils nous lancent » où participent de nombreuses personnalités. Nous sommes en compagnie de Frédéric Ancel qui en a donné le coup d'envoi, docteur en géopolitique et auteur d'un excellent livre « Atlas des frontières » publié chez Autrement. Frédéric Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Le département d'État et Jean-Yves Le Drian, pardon, nous avaient parlé il y a 3 mois de talibans inclusifs. Est-ce qu'on en est là ?
Les talibans.
Ils sont devenus féministes et gay-friendly pendant qu'on y est.
Non, je pense qu'on a peut-être été un tout petit peu optimiste, peut-être un petit peu beaucoup. En même temps, ce n'était pas totalement idiot de tenter de leur faire comprendre à ces néo-talibans, si tenter qu'ils soient réellement néo quelque chose, que de toute façon, sans une aide internationale à minima, eh bien, leur pays, enfin, leur population connaîtrait un état de famine. Or, un état de famine, ça signifie quoi? Ça signifie des révoltes. Et les talibans, croyez-moi qu'après 20 ans de guérilla, ce qui n'est pas facile, hein, ils ont pris des coups en 20 ans quand même. Hein. En 20 ans de guérilla et ou d'exil, pour certains d'entre eux, bah maintenant, ils ont envie de rester au pouvoir. Donc, si vous voulez, c'était une manière de leur dire, écoutez, maintenant, vous êtes revenus au pouvoir, c'est un fait, on le constate, mais n'allez pas trop loin et même allez moins loin que votre pouvoir établi entre 96 et 2001, parce que sinon, bah, on va pas du tout prodiguer ce qui pourrait vous permettre de rester au pouvoir, parce que votre population, elle va souffrir. Mais je pense qu'on a été un peu optimiste, parce que manifestement, ne serait-ce que petit à petit, de manière très tactique, les talibans, en réalité, n'en font qu'à leur tête et reviennent à ce qu'ils étaient malheureusement en 96.
Philippe Bilger.
Donc, Frédéric Ancel, si on pense que les talibans, par rapport à leur au traumatisme ancien, ça signe même une certaine modération, peut-être par tactique, ça n'est plus vrai maintenant.
Ah, ça l'est de moins en moins. Et chaque semaine nous apporte malheureusement son lot de mauvaises nouvelles. Alors prévisible ou pas, c'est toujours facile à posteriori de dire décidément, ils n'ont pas changé. Mais là, par exemple, vous voyez ce qui vient de tomber. Alors ça peut paraître anecdotique, mais dans les films qui seront diffusés, que ce soit à la télévision ou au cinéma, dorénavant, l'apparition de femmes sera interdite. Bon, on revient à 96. Donc nous, ça nous paraît ridiculement, alors important bien sûr, mais ridiculement rétrograde. Pour eux, c'est une normalité totale. Simplement, ils le font effectivement, je reprends votre terme, de manière plus tactique. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire.
On fait apparaître Françoise Degois dans le débat.
Ah, bonsoir Frédéric Ancel, plaisir bonsoir. de toujours de vous entendre. Merci. Évidemment. Moi j'ai une question, évidemment, personne n'a cru à ces talibans inclusifs, il faut être fou. D'ailleurs, ce n'était pas Jean-Yves Le Drian, si vous en souvenez bien, le premier à l'époque, Hervé Morin, ministre de la Défense, avait utilisé cette idée sur le taliban modéré, concept de taliban modéré. Donc moi je suis d'accord avec vous, ne pas se laisser prendre. Après, la question que l'on se pose tous, c'est est-ce que finalement Kaboul est en train de redevenir, enfin l'Afghanistan, un sanctuaire et l'arrière-base de groupes évidemment djihadistes, même s'ils se détestent entre eux, qui vont venir nous frapper? C'est juste ça la vraie question, en fait.
Frédéric Ancel.
Alors non, et de ce point de vue-là, je serais réellement, alors pas optimiste, mais réaliste, pour une raison assez simple, c'est que au fond, les talibans ne sont pas réellement des djihadistes.
Ça, c'est vrai, bien sûr, c'est pas...
Voilà, vous savez, voilà, c'est ça.
Oui, bien sûr, c'est une nuance,
Voilà, ce sont plus des islam nationalistes, si vous voulez. Oui. Alors nationaliste, en même temps, l'idée de nation, hein, ça ne veut rien dire, mais vous m'avez compris, ça, en fait, ce sont des local islamistes.
Et autant en 96, ils avaient pensé faire les malins en faisant coup de feu à la frontière iranienne, parce qu'évidemment l'Iran sont des chiites, donc l'horreur, et aussi le coup de feu dans la vallée, dans la riche vallée du Fergana, en Ouzbékistan. Autant là, ils ne le feront pas, et d'ailleurs regardez à quel point ils commencent à lutter, d'abord ils n'ont pas le choix, contre plus fanatiques qu'eux encore, et là pour le coup réellement djihadistes, à savoir Daesh, parce que les Américains sont partis, mais ceux qui restent dans la région, ce sont les Russes via leur base en Ouzbékistan, et les Chinois. Et les talibans sont des fanatiques, mais pas tous des imbéciles. Et ils savent très bien que les Chinois n'auront strictement aucun humour. Mmh. Et il y a une frontière de 76 kilomètres entre les deux pays. Et les Chinois dans la région aujourd'hui sont infiniment plus puissants et proactifs qu'il y a 20 ans. Et c'est la raison, 25 ans. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une rencontre entre des officiels chinois à un haut niveau, il y a quelques semaines. En fait, avant que les talibans reprennent, juste avant qu'ils reprennent le pouvoir à Kaboul, et les chefs talibans qui, cette fois, ne serait-ce que pour cette raison-là, vont vraisemblablement se tenir à carreau. Quant à Daesh, finalement, vous savez, c'est un petit peu la nuit des longs couteaux, j'aime bien cette conceptualiser en fait ce qui fut une réalité en 1934 dans l'Allemagne nazie, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des plus fanatiques qu'eux encore, et des plus dangereux du moins à leurs yeux, qui tentent maintenant de les déstabiliser, en les traitant de traîtres, parce qu'ils ont décidé de ne pas exterminer, tout de suite en tout cas, les chiites Hazara. Et bien je pense que les talibans, pour cette raison-là au moins, avant de tenter de nous frapper ou de nous envoyer des spadassins, ils vont d'abord avoir à gérer cette situation.
Non, ma question était, j'ai bien compris cette nuance, on la connaît bien entre les talibans, la question c'est, est-ce qu'ils laissent quand même se sanctuariser des groupes terroristes ou pas? A priori, non.
Non, pas à ma connaissance. Non, parce que les groupes terroristes, par définition aujourd'hui, ils sont djihadistes.
Jean Dorido.
Oui, pour moi, le problème de l'Afghanistan, c'est vraiment la question qui n'est pas résolue du droit d'ingérence, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est vraiment des questions autour de ces valeurs qui semblent être des valeurs universellement partagées aujourd'hui sur les droits de l'enfant, sur les droits des femmes. Et c'est toute la question de un État souverain a-t-il le droit d'enfreindre des droits fondamentaux et universels? Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'entente supranationale suffisamment forte et indiscutable pour faire respecter des droits qui, me semble-t-il, sont absolument fondamentaux. Et donc, ce qui est effrayant, c'est de voir le traitement des enfants en Afghanistan, notamment des petites filles. On voit des situations absolument sordides. Et donc, la question, voilà, c'est est-ce qu'on accepte de laisser faire parce que chaque État est souverain et finalement, on s'en lave les mains, ou est-ce qu'on continue quand même de travailler à l'idée d'une construction, d'une entente supranationale pour faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum pour l'humanité sur cette terre.
Frédéric Ancel.
Alors, je vais voir, d'abord, je partage totalement le présupposé humaniste et universaliste qui est le vôtre. Le problème est le suivant, qui est le « on » dans votre phrase? Quand vous dites à plusieurs reprises, est-ce qu'on laisse faire, est-ce qu'on est prêt? Si c'est l'Organisation des Nations Unies, alors là vous oubliez tout de suite, on est sur un forum ou un cénacle assez classique, voire très classique dans les relations internationales depuis la haute antiquité, des rapports de force. Bien sûr. Et vous imaginez bien qu'aujourd'hui, la Chine et d'ailleurs la Russie ne vont en aucun cas, notamment depuis l'épisode libyen où ils considèrent qu'ils ont été trahis à l'époque, n'en aucun cas nous permettre à nous autres occidentaux, qui que nous soyons d'ailleurs, parce que c'est l'Occident uni, ça n'existait pas, enfin, globalement, à des États extérieurs, d'entrer de nouveau, de faire de l'ingérence dans cet État afghan, qui d'ailleurs n'a d'État que le nom. Mais là, si vous voulez, c'est le frein, enfin, c'est la limite, en réalité, du fonctionnement et de l'exercice de l'ONU, mais ça, c'est, je vais vous dire, c'est ce qu'ont voulu les grandes puissances en 1945. J'ai presque envie de dire que, par un faux paradoxe, l'ONU, finalement, fonctionne très bien dans la mesure de ce qu'on lui a donné, ou dans le cadre de l'exercice qui a été le sien depuis 45. Donc malheureusement, là-dessus, je vais être extrêmement pessimiste. Non, on n'interviendra pas directement.
Oui, non, enfin, sur le, moi je vous rejoins à 400%. Maintenant, voilà, le on, sans doute qu'il y a quelque chose autour de l'Europe qui porte, enfin, qui est censé porter justement des valeurs humanistes. Et puis effectivement, cette notion d'Occident qui est très discutable. Maintenant, voilà, c'est un fait qu'il y a quand même des valeurs qu'il est possible d'envisager comme étant des valeurs universelles, mais c'est toute une question.
Oui, vous avez raison, mais pour pouvoir créer, pardon, je le dis d'un mot, pour pouvoir créer des normes et défendre des valeurs, il faut être fort.
Je vais vite, parce que la réalité qui se pose, la plus concrète, c'est la famine, en réalité. On meurt de faim, en réalité, en Afghanistan. Est-ce que l'aide internationale se débloque, même de façon discrète? Mais il faut quand même qu'elle se débloque. Alors, j'en parle évidemment des souffrances de ces petites filles, même qui sont vendues. Enfin, c'est vraiment sordide. C'est atroce. Grosse, mais sur la nourriture simplement, sur ce déficit d'argent qu'on connaît, sur le blocage l'inflation. Évidemment de la Banque mondiale et de toutes les institutions mondiales pour punir un peu le régime, en tout cas le faire danser, est-ce qu'on a avancé là-dessus ou pas?
Non, on n'avance pratiquement pas parce que le problème est toujours le même. On dit aux talibans, écoutez, on veut bien laisser rentrer, débloquer des fonds et laisser rentrer l'aide alimentaire. Les talibans disent, attendez, nous maintenant on est souverains, donc nous on va distribuer. Donc vous nous donnez d'abord les fonds. Or on sait très bien ce qui se passe. Lorsque vous donnez à ce type de fanatique des fonds, bah évidemment, il est peut-être d'abord. Alors effectivement, il est redistribué, mais exclusivement à ceux parmi leurs spadassins et les chefs de clan qui leur font directement allégeance. Autrement dit, ils le donnent de manière extrêmement parcimonieuse à la population, mais à l'extrême limite pour qu'elle ne se révolte pas, enfin à la limite de l'inanition, le reste ils le gardent pour eux, et puis ils construisent des armes et ils construisent, comme dirait Coluche, de la drogue, et ils font pousser les chèvres. Donc si vous voulez, là c'est extrêmement problématique, parce que si on ne le fait pas de notre côté, et là vous intervenez de manière très juste, si on ne le fait pas, bah, on pourra s'auto-accuser ensuite d'avoir laissé épouvantable, oui c'est ça, une population
qui meurt de faim, vraiment, qui meurt de faim.
C'est à peu près insoluble.
C'est insoluble. Merci beaucoup Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et auteur de Atlas des frontières, publié chez Autrement. Tout de suite, notre grand débat. Pays-Bas, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Vous êtes 95,8% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Quatre immeubles de Pointe-à-Pitre partent en fumée.
Le coupable, c'est celui qui a mis l'obligation vaccinale.
Moi, je veux d'abord dire aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que la nation, depuis le début de cette crise, est à leur côté.
Nous disons que les politiques devraient, dans l'urgence, réagir.
Nous avons déployé tous les moyens, tous les soutiens, les matériels.
Toute la population se révoltait parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui doivent remonter à la surface.
La nation est en solidarité.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Les émeutes contre les restrictions sanitaires se sont succédées ce week-end de Rotterdam à Vienne et de Bruxelles à Pointe-à-Pitre. À Rotterdam, la police a tiré à balles réelles, faisant au moins 7 blessés. Et en Guadeloupe, ce sont les forces de l'ordre qui ont été victimes de tirs à balles réelles. Bref, entre passe sanitaire, obligation vaccinale, mise à l'écart de la société des non-vaccinés et reconfinement, il y a fort à craindre que ces scènes se renouvellent dans les semaines à venir. D'où notre grand débat Pays-Bas, Guadeloupe. Restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Et pour le moment, vous êtes 95,8% à dire oui. Avec nous, Malick Salancourt, président national de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
La police qui tire à balles réelles sur la foule à Rotterdam, est-ce que vous auriez imaginé ça?
C'était évidemment impensable et ce sont des comportements policiers qui mériteront d'être sanctionnés. Il y a eu une décision de tirer qui a manifestement été prise et qui est totalement irresponsable. Qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des invitations à se dissiper et à, lorsque celles-ci sont pas régulières, oui, mais certainement pas à tirer balles réelles. Là, je pense que là, on a dépassé tout entendement.
Philippe Bilger.
Monsieur le Président, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan les Pays-Bas et la Guadeloupe en les considérant comme les conséquences dramatiques de la crise sanitaire? Est-ce qu'en Guadeloupe, il n'y a pas quelque chose de plus, comme si ce pays était, comment dirais-je, sujet à un dépit démocratique comme il peut y avoir des dépits amoureux? J'ai l'impression que la Guadeloupe considère qu'elle est abandonnée, qu'elle est malheureuse, et en même temps elle fait tout pour attirer l'attention sur elle, même par l'expression du pire. Est-ce que vous ne voyez pas une psychologie collective qui dépasse de très loin le problème sanitaire?
Malick Salancourt.
Vous avez parfaitement raison, monsieur Bilger. Évidemment, la situation n'est pas du tout la même entre ce qui se passe aux Pays-Bas ou dans d'autres pays et du mouvement anti-vax avec ce qui se passe dans la Guadeloupe, et parce qu'il y a là véritablement des questions sociales qui réémergent à cette occasion-là. On voit bien que un an et demi de crise économique, de crise de tourisme, de crise d'activité a laissé des traces. Et en plus, il faut le dire, la question de la vaccination ne se place pas dans les mêmes termes selon les territoires. Le chlordécone a laissé des traces. Il y a une histoire autour de la vaccination, autour de la responsabilité de l'État, autour de « ayez confiance en moi ». qui aujourd'hui a besoin d'être reconstruit. Donc il y a vraiment besoin d'apaiser les situations et on dépasse très largement en effet la question de du vaccin obligatoire.
Est-ce qu'on peut, on peut se dire clairement, Malik, que en réalité la tradition française a toujours été de faire des dom-toms, des Antilles et de la Réunion des lieux d'expérimentation aussi pour le traitement des maladies tropicales, et que le chlordécone, c'est un scandale d'État absolument scandaleux, vraiment, qui n'a jamais été pris en compte, qui n'est toujours pas pris en compte. On rappelle ce que c'est, pesticide ultra toxique. 98% des Guadeloupéens sont intoxiqués. C'est une molécule qui met 700 ans
à se détruire.
Donc, il y a des raisons de défiance. Il y a également des raisons de défiance de la part de la Guadeloupe, des Antilles en règle générale. Bien sûr qu'on envoie le RAID, je l'entends bien, mais quand est-ce qu'on a envoyé les soignants ? Très tard. Quand est-ce qu'on a envoyé les lits d'hôpitaux ? Très tard pour la gestion du Covid. Quand est-ce qu'on a envoyé la Guadeloupe ? C'est la République française. Vous avez un tiers de la population aujourd'hui encore qui n'a pas accès à l'eau potable. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Donc, moi, j'entends absolument ce qu'il y a derrière la colère des Guadeloupéens, ça dépasse, et Philippe Bigère a raison, très largement la question sanitaire, mais il y a aussi cette défiance d'un État pour les indépendantistes coloniales, même si je note, et vous l'aurez noté Malik avec moi, que les indépendantistes ont appelé, eux, à la vaccination.
Malik Salancourt.
Il y a un esprit de responsabilité, je crois quand même, il faut le saluer, et l'essentiel des habitants de Guadeloupe et d'Outre-mer ont fait aussi les efforts, comme l'ensemble des Françaises et Français, pour prévenir et pour faire de la santé publique.
Mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait qu'ils se sentent mal aimés, qu'ils ont raison de se sentir mal aimés ?
C'est plus que clair. Quand je disais qu'il y a une crise sociale, une crise économique, une crise culturelle qui aujourd'hui n'est toujours pas prise en compte et que le Covid est venu réveiller avec virulence, avec violence. Et en effet, vous avez parlé en effet de ce scandale du chlordécone et les questions indemnitaires, les questions de prise en compte de la parole justement de ces personnes qui ont été traitées comme du bétail, c'est clair.
Vous savez à quoi ça me fait penser ? À un autre scandale qu'on connaît peu, mais dont vous avez entendu parler, au Japon, la maladie de Minamata.
Oui,
ils ont été traités à cause du mercure dans les poissons. Ils ont été traités, les Guadeloupéens, comme les Japonais, par l'État central, et ça a duré 50 ans.
C'était
la comédie.
C'était en 56, le début
la comédie, hein, franchement. Hein.
Jean Dorigo.
Oui, non, alors, en fait, pour compléter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'en fait, ce qui est angoissant, c'est, on appelle ça en psychologie, c'est la fausse attribution, c'est-à-dire qu'il y a des situations, bien sûr, de malaise qui sont polyfactorielles, évidemment. Maintenant, ce qui est assez anxiogène, c'est que quand quelqu'un, en psychologie, on observe que quand quelqu'un est mal à l'aise, sans trop vraiment savoir pourquoi, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne vont pas, si vous lui proposez une explication à ce malaise, eh bien, elle va avoir tendance à vraiment penser sincèrement que c'est la cause de tous ces maux. Et c'est le danger avec cette crise sanitaire, c'est qu'il y a un vrai malaise, et c'est pas qu'en Guadeloupe, on le voit même en métropole, il y a une situation qui depuis longtemps se dégrade socialement, et c'est vrai que cette pandémie-là qui n'en finit pas, d'abord ça fatigue évidemment les esprits, et il y a un vrai danger de dénominateur commun, que finalement tout le monde ait le sentiment que c'est ça le problème, et que ce serait mal géré par nos gouvernants, et ça peut effectivement provoquer des espèces de colères comme ça insurrectionnelles qui sont assez angoissantes en réalité.
Malik Salancourt, et on part au 0826 300 300.
Comme le président de la République l'a dit au maire, il les a salués et les a remerciés pour leur implication, mais il faut quand même considérer que cette crise a été gérée de manière très autoritaire, très d'en haut. Or, on le voit bien, c'est avec les élus locaux, et j'attends en effet de voir ce que M. Cassex va dire aux élus de Guadeloupe, pour trouver des solutions de réponse de proximité. Il y a besoin d'apaiser, il y a besoin de signes, il y a besoin de ne pas pousser la vaccination obligatoire sur ce territoire, il y a sûrement besoin, comme nous l'affirmons déjà depuis des semaines, de maintenir la gratuité des tests, pour déjà donner des signes que, on va essayer de trouver ensemble les moyens de s'en sortir. Là, il y a d'abord des malades, c'est eux qu'il faut traiter, il y a un hôpital qu'il faut véritablement soutenir, c'est là-dessus qu'il faut mettre les moyens d'urgence, et ensuite mettre du dialogue plutôt que le règne.
Je voulais juste rappeler, avant de prendre que 2009, je me souviens, parce que moi je les ai faites, ces émeutes en Guadeloupe, Elie Domota, leader, 55 jours, vous vous en souvenez,
oui.
55 jours de grève contre la vie chère et les conditions de vie. Les syndicats guadeloupéens sont des durs à cuire, vraiment.
Et très... lui, il est toujours là.
Il est toujours là. Moi, j'aime beaucoup Elie Domota, pardon. Hein. Ils sont des durs à cuire et je suis d'accord avec Malik. Ça ne peut pas passer par le rapport de force que nous perdrons tout le temps. C'est vraiment le dialogue, le dialogue, le dialogue.
Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction le Val-de-Marne, direction Thiers. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir les vrais voix.
Bonsoir, est-ce Arnaud. Que pour vous les gens sont à bout, que ce soit aux Pays-Bas, en Guadeloupe, en Autriche ou en Belgique?
Alors je pense qu'il faut, il faut dissocier un peu la situation de la Guadeloupe et des Pays-Bas et en Belgique. La Guadeloupe est un territoire français et tout ce que vous avez dit dessus résume parfaitement l'état d'esprit qu'on est en train, que la France, que la métropole a mis en place au sein de la Guadeloupe. Quand on prend le problème des Pays-Bas et de la Belgique, qu'est-ce qu'on constate? Et de manière générale, c'est un petit peu ça. On constate quand même que les gens se soulèvent, se rebellent, parce que la situation vis-à-vis du Covid, mais alors, elle n'est absolument pas claire. Nous avons eu hier l'intervention du professeur Christian Perron sur CNews, qui expliquait que de toute façon, l'épidémie était passée, et que ça ne servait à rien de s'entêter à mettre en place des décisions vis-à-vis de la vaccination qui ne servaient strictement à rien. Il a expliqué qu'en Angleterre, il y avait beaucoup de vaccinés qui étaient contaminés par le virus, beaucoup plus que de non-vaccinés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on met une pression, en définitive, et les médias, beaucoup de médias mettent une pression sur les gens, et M. Macron aussi, et le gouvernement aussi, et j'en veux pour preuve les dernières déclarations de M. Attal, qui disent que de toute façon, la cinquième vague est là, qu'il va falloir se vacciner, continuer à se vacciner, mais les gens sont quand même pas dupes. Les gens sont quand même pas dupes. Il y a 15 jours, il y a moins de 15 jours, M. Macron a fait une déclaration en disant que les vaccins seraient appliqués pour les gens de plus de 60 ans, et quelques semaines après, c'est-à-dire 15 jours après, c'est le gouvernement qui a annoncé qu'il fallait appliquer la troisième dose pour les gens de 50 ans et de 40 ans.
Ça alors 40 ans, c'est la Haute Autorité de Santé.
Ben oui. 40 ans, mais c'est la Haute Autorité de Santé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le M. Macron et cette Haute Autorité de Santé, ça ne discute pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Arnaud,
c'est ça que ça met en avant. Et vous croyez quand même que les gens, ils vont rester, ils ne réfléchissent pas? Monsieur Macron et le gouvernement et cette haute autorité de santé récupèrent, et la Belgique et les Pays-Bas en sont simplement les prémices, vont récupérer une situation explosive. Il faut bien en prendre conscience.
Alors,
ça, c'est sûr.
Arnaud, merci beaucoup pour votre témoignage. On va faire réagir Malik Salancourt. Vous avez entendu Arnaud qui disait le gouvernement va récupérer une situation explosive. Quand on voit, il avait raison de le dire, Pointe-à-Pitre, c'est pas Rotterdam. Est-ce que vous craignez un effet traîné de poudre, Malik Salancourt?
Je crois que non, car l'esprit de responsabilité de la population française a bien montré qu'elle était capable de responsabilité. Après, il faut quand même noter que cette maladie reste une maladie dangereuse. Quand bien même on est vacciné, le fait d'être contaminé, même si on ne va plus en service de réanimation, il y a encore des séquelles, il y a encore des difficultés. Donc, nous ne considérons pas ça comme une vulgaire grippe parce que maintenant on est vacciné. Il y a encore véritablement à faire attention à cela. Après, il faut, en effet, et toujours, maintenir de l'explication, maintenir de la pédagogie, et en effet, maintenir de la transparence. Et c'est là-dessus qu'à chaque fois, le gouvernement se prend des fois les pieds dans le tapis, en desserrant, réaccélérant, donnant des discours qui ne sont pas cohérents. Et là-dessus, face à ça, il y a besoin au contraire de transparence, de lisibilité et surtout, après, d'adapter au plus près des territoires les réalités. On n'est pas dans la même situation selon qu'on est, en effet, dans une île ou on est dans la capitale ou en région.
Absolument. Ça rappelle beaucoup. Direction, on était à Thiers, on part à Marseille. Bonsoir, Philippe.
Oui, bonsoir. Je souhaitais intervenir. Merci pour toutes ces interventions. Je pense effectivement qu'il y a un vrai point en commun à toute cette situation, même si bien sûr les Antilles ce ne sont pas ni la Belgique ni les Pays-Bas ou tout autre pays. On voit de toute façon qu'il y a un phénomène mondial de réaction quand on voit les immenses manifestations en Autriche ou un certain nombre de pays en réaction à cette espèce de sentiment d'être pris dans une nasse, de voir qu'il y a véritablement un discrédit de la parole politique, que les gens ne sont pas idiots, ils se renseignent et constate malheureusement qu'il y a énormément de mensonges d'État
autour de cette question du Covid, des soins, etc. Et quand on regarde ce qui s'est passé notamment dans les Antilles, ou en tout cas dans un certain nombre de dom-tom où l'ivermectine a été réquisitionnée et planquée au sous-sol des hôpitaux avec interdiction de soins.
Alors ça, j'ai pas de preuve que ça ait eu lieu, ça. Hein. Donc, je vous laisse responsable de vos propos.
Bah écoutez, moi je peux être tout à fait responsable de vos propos comme vous des vôtres, mais à un moment je pense qu'il faut dire les choses et nommer les choses. Il y a un phénomène mondial qui peut être lié aussi à un phénomène, et ce n'est pas complotiste de le dire, puisque toutes les preuves sont sur Internet, comme disait M. Perron, effectivement tout ce qu'il a cité dans son bouquin sont sourcés.
C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est fiable.
C'est vrai, il y a beaucoup de bêtises sur Internet.
Sur le site, oui, mais quand vous, à un moment, je pense qu'il faut faire preuve d'un petit peu de, je dirais, de cohérence et de réalisme. Nous sommes dans malheureusement une situation, je ne vous parlerai pas du Great Reset quand même, mais je pense qu'à un moment il faut quand même se poser la question de ce qui se passe, qui est quand même un phénomène mondial. Comme l'a dit le professeur Perron, ce qui a quand même été surprenant, c'est que dans cette crise Covid, tout ce qui avait été prévu à l'époque dans les plans de gestion des pandémies, rien n'a été mis en œuvre. On ne sait toujours rien.
Alors ça c'est vrai qu'il y a eu quand même, il nous reste à peine une minute, je veux faire réagir Malik Salancourt. C'est vrai qu'il y a eu de gros manquements au démarrage entre les masques, ceux-ci, ceux-là, qui manquaient, et les lits de réanimation qu'on a continué de fermer. Merci beaucoup Philippe de Marseille. Malik Salancourt, désolé, c'est pas une rime ou un jeu de mots. Est-ce que vous pouvez répondre, mais assez court.
Oui, alors attention au complotisme, attention, on a quand même une maladie grave, on a quand même eu des décès, et la France s'en sort pas si mal, il faut quand même le signaler.
C'est bon de le rappeler.
C'est quand même important de le rappeler parce que d'autres pays ont bien plus de morts, bien plus de... Mais ça n'empêche qu'il faut continuer à être vigilant, mais aussi sur les impacts sociaux que cela a dans la démocratie aussi, dans le mode de fonctionnement de notre République et de nos institutions. Un Parlement qui fonctionne, des élus locaux qui sont impliqués, et puis les conséquences sociales que ça a, c'est-à-dire sur le pouvoir d'achat, l'explosion des prix, tout ça c'est à prendre en compte. Donc il y a besoin encore plus qu'avant de citoyens et de démocratie et de discussion entre nous.
Merci beaucoup Malik Salancourt, président de la Ligue des droits de l'homme, notre grand débat, Pays-Bas, je vais y arriver, Guadeloupe, restrictions sanitaires, les gens sont-ils à bout? Vous êtes 95,8% à dire oui. Tout de suite, on va prendre la direction de Nîmes, puisqu'il y a, là-bas demain une manifestation de soignants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degout et Jean Dorido. Et c'est à vous, mon cher Jean-Marie Bordry. Si l'obligation vaccinale des soignants est moins contestée en métropole qu'en Guadeloupe, il y a quand même des manifestations. Exemple demain, devant le tribunal administratif de Nîmes.
Ouais, où il y aura une manifestation de soutien à 34 soignants suspendus parce que non vaccinés. Vous savez, depuis le début du mois de septembre, c'est obligatoire pour les personnels des hôpitaux. Ce sont des soignants qui viennent, d'Avignon, de Cavaillon, de Carpentras par exemple. Bonjour Anne-Victoria Farge-Palais.
Bonjour et bienvenue. Très heureuse d'être parmi vous.
Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bienvenue. Vous êtes avocate au barreau de Paris et d'Avignon et vous recevez des mails d'ailleurs, on l'entend en ce moment. Vous êtes effectivement très demandée.
C'est logique, comme elle est d'Avignon, elle est sur le pont.
Alors,
elle est bien.
Allez, vous représentez 34 agents publics, j'ai dit d'où ils venaient. Alors ce sont soit des soignants, ça peut être des infirmiers, ça peut être des médecins, il y a même une anesthésiste réanimatrice. Ils ont tous en commun deux choses. De n'être pas vacciné parce qu'ils le refusent d'une part, et d'autre part d'être soit en ce moment en arrêt de maladie, et ce depuis l'obligation vaccinale, soit d'être en RTT, pareil depuis l'obligation vaccinale. C'est bien ça ?
Alors, ils sont pour la plupart en arrêt maladie, mais antérieurement au 15 septembre, pour des maladies avérées, et j'insiste bien là-dessus, notamment beaucoup de dépression et de burn-out, pour le trop grand travail qu'ils ont fourni et les conditions exécrables dans lesquelles ils doivent travailler, notamment l'année dernière. Certains ont des blessures, d'autres ont dépression, et il y en a quelques-uns qui ont même pas pu prendre le RRTT, dont une qui est anesthésiste réanimatrice, vous imaginez le travail qu'elle a fourni l'année dernière au service de réanimation, 85 jours de RTT qu'on lui a refusé de prendre.
Alors, elle a essayé, on va rappeler d'ailleurs un peu le contexte, oui. Justement, parce que pourquoi vous les défendez, c'est-à-dire que tous ces soignants-là ne sont pas vaccinés. Donc du coup, ils sont suspendus, même quand ils ne sont pas à l'hôpital, parce que même en arrêt de maladie ou en RTT, ils sont censés être vaccinés, c'est ça ?
Absolument. Alors, c'est pas exactement cela. La loi ne précise pas si ceux qui sont en arrêt maladie ne doivent pas être vaccinés pendant leur arrêt maladie. Mmh. Mais les hôpitaux ont fait du zèle et ont exigé de leurs agents qui étaient en arrêt maladie qu'ils prouvent qu'ils étaient vaccinés. Alors que l'ARS a envoyé une lettre le 23 septembre à tous les hôpitaux de la région, et je pense de France, en indiquant qu'il n'était pas question de suspendre la rémunération, ou plutôt les indemnités journalières, des agents qui étaient en arrêt maladie, puisque de facto, leur contrat est suspendu et qu'en plus, ils n'ont aucun contact avec les patients. Donc, il n'y a aucun risque pour les patients.
Je crois que vous nous avez perdu l'ancien magistrat, le magistrat honoraire qui est avec nous. Philippe Bilger.
Non, je voulais vous demander, maître, je parviens mal à comprendre l'arbitrage que font ces gens entre le sanitaire et leur éthique personnelle. Est-ce que ils tiennent absolument à leurs convictions, même si se faire vacciner peut apparaître pour quelqu'un qui est très limité dans ce domaine comme une sorte de bon sens pour tout le monde ?
Alors, c'est pas du tout du bon sens pour les soignants qui ont une solide formation dans le domaine scientifique et médical, qui ont constaté sur place des visus le nombre d'effets secondaires, notamment dans les services de cardiologie, les myocardites en particulier. Donc, ils voient les effets secondaires et dans la balance bénéfice-risque, ils considèrent que le risque est beaucoup plus important parce qu'en plus, on est face à une vaccination qui est expérimentale.
En tout cas, c'est leur point de vue, justement. Mais oui, on peut les qualifier d'anti-vaccins, en tout cas ces soignants. Ça, c'est un fait. Jean Dorido.
Oui, non, l'expérience de ces soignants est tout à fait respectable. Je veux bien croire, madame, sur le fait qu'ils aient de leurs yeux vus des effets secondaires qu'ils semblent indésirables et fâcheux. Toutefois, c'est l'expérience personnelle, fût-ce l'expérience personnelle d'un soignant, n'est pas, si vous voulez, comparable à toutes ces études qui ont été faites dans le monde entier et qui vont toutes dans le même sens. Jusqu'à preuve du contraire, le rapport bénéfice-risque est, mais sans commune mesure, en faveur du vaccin. Il est quand même important de le rappeler. S'il y a des études scientifiques randomisées qui sont faites dans le monde entier, c'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour quand même on puisse se fier sur autre chose que l'expérience du cousin, du beau-frère, du copain, non, de la belle-sœur, qui a eu des effets secondaires.
S'il vous plaît, je ne vous laisserai pas dire des choses pareilles. Je n'admets pas que l'on fasse dévier l'interview sur le vaccin est-il bon ou pas. Le problème aujourd'hui, c'est que moi j'ai 34 personnes qui sont suspendues et un juge rejette mes procédures en référé suspension de la suspension, alors que nous avons des décisions constantes du Conseil d'État qui viennent spécifier qu'il y a un caractère d'urgence immédiat, il y a une présomption d'urgence quand on vous prive de votre rémunération. Or, ces agents qui sont en arrêt maladie ne doivent pas être privés de leurs indemnités journalières et ce juge-là considère qu'on ne prouve pas qu'il y a des conséquences graves et immédiates de ne pas percevoir son salaire alors que vous avez des femmes qui ont 3-4 enfants. Il y en a une qui vit dans une roulotte.
Évitez de rapporter ce qu'ils ont vu à ce moment-là.
Non, mais parce que vous m'avez posé la question, vous me posez une question.
Vous avez répondu. En tout cas, vous...
Oui, ils sont contre la vaccination, mais la problématique n'est pas là.
En tout cas, vous, celle que vous portez devant les tribunaux n'est pas le vaccin ou pas, c'est que vous contestez leur suspension.
Oui, quant aux études randomisées, nous verrons dans quelques années. Ne soyons pas radicaux, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je vous en prie, parce que qu'on n'ait pas à regretter ni les uns et les autres un jour les mots qu'on a prononcés.
Et restons en tout cas toujours sur Sud Radio. Parlons vrai. Merci Anne-Victoria Farge-Palais. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et d'Avignon et que vous défendez ces 34 soignants qui sont suspendus parce que non vaccinés.
Merci beaucoup Jean-Marie Bordry. Dans quelques instants, nos deux vraies voix du soir. Tiens, c'est encore l'Île-de-France et le Sud. Baptiste des Hauts-de-Seine et Ludovic de Montpellier. Ils veulent surtout parler des sanctions, ou plutôt des non-sanctions, contre les clubs et contre les pseudo-supporters de football. Et notre psy va rester avec nous pour en parler. Jean Dorido, restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix, il est resté avec nous, notre docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi, Jean Dorido. Et nous avons avec nous, comme vraie voix du jour, Baptiste des Hauts-de-Seine, bonsoir.
Bonsoir.
Et Ludovic de Montpellier, alors on l'ajoute, il est supporter du Montpellier Hérault Sporting Club. Bonsoir Ludovic.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir les vrais voix.
Bonsoir, Ludovic. Même si pour le MHSC, à ce que je sache, ça s'est moyennement passé hier. Désolé.
Et on reçoit Lyon dimanche, pour info.
Ah oui, alors là, attention, oui, là,
attention
ça va être chaud.
Attention au jet de bouteille, là, ça
va être chaud. On va commencer avec vous, Baptiste, sur le premier débat. Vous vouliez parler notamment du premier débat, tous les deux. Est-ce que les sanctions ont été trop faibles depuis le début de la saison et que maintenant, bah, c'est open bar, on peut jeter une bouteille pleine sur Payet quand il va tirer un corner? Alors, c'est Payet qui a été visé pour la deuxième fois après le match à Nîmes. Ça avait été Rongier lors du match à Montpellier, ou alors ça pourrait être n'importe quel autre joueur demain ou enfin, la semaine prochaine, ça pourrait être Mbappé avec le PSG ou Paqueta avec Lyon. Hein. Baptiste.
Je sais pas si les sanctions ont été trop faibles. Je pense qu'on fait pas grand chose dans ce pays pour lutter contre les débordements qu'on a pu voir hier, qui sont pas les mêmes que ceux qu'on avait vus un peu plus tôt dans la saison. Et en ce qui concerne les débordements qu'on a vus hier, si vous avez déjà été assisté à un match de foot,
oui, beaucoup de fois, et pas qu'en France.
Et ben en France, la fouille à l'entrée du stade de foot, c'est une mascarade. Voilà, c'est une mascarade, c'est-à-dire que la fouille, elle n'existe pas. Voilà. Donc là, comment un mec peut se retrouver avec une bouteille d'eau pleine dans un stade de foot? Pourquoi il n'y a pas de filet de sécurité? Pourquoi rien n'est fait pour empêcher ce genre de choses? Puisqu'on n'est pas un pays qui, comme l'Angleterre ou comme l'Allemagne, est capable de se réguler et de ne pas avoir ce genre de comportement chez les supporters, pourquoi on ne fait pas tout pour éviter ce genre de choses? Et en l'occurrence, là, il y a des solutions pour éviter ce genre de choses.
Alors, Baptiste, moi j'ai vu des matchs, y compris en Ligue des Champions à l'étranger, où la fouille était moins drastique qu'en France. Je suis allé voir un Barcelone-Paris-Saint-Germain au Camp Nou il y a 8-9 ans, où la fouille, alors là c'était vraiment purement symbolique. Et donc, il n'y a pas qu'en France que les fouilles sont symboliques. On va faire réagir Ludovic de Montpellier.
Est-ce que je peux rebondir sur quelque chose qu'a dit Baptiste?
Mais bien évidemment, c'est là, vous êtes là pour débattre.
Là, pour le coup, il va être d'accord avec moi, parce que pour avoir fait aussi plusieurs matchs en parcage, quand on voit les fumigènes, etc., c'est impossible que ça passe au niveau de la foule. Donc il y a forcément des mecs, que ce soit de la sécurité, des clubs, des dirigeants adverses, j'en sais rien, qui font rentrer. Oui, fatalement, le problème, il est plus profond. Tu peux pas faire rentrer si t'as une personne lambda, même dans les groupes de supporters, etc.
Ludovic, je vous pose une question. Vous êtes membre d'un groupe de supporters?
Non, mais je fais les déplacements en mode autonome pour le MHSC, ouais.
D'accord, ok. D'accord.
Et on le voit, mais pas et puis Montpellier, et puis pour tous les autres clubs, parce que nous, on n'est pas les plus chauds, mais tu regardes à chaque fois à Marseille, n'importe où, à l'extérieur, on parlait que de ce club-là, tu as des objets interdits qui sont rentrés chaque week-end dans les stades.
Alors ça c'est vrai que ça pose problème. Jean Dorido, c'est vrai quand même que la fouille, alors on va nous dire que les stadiers, ça coûte de l'argent au club, ça c'est une évidence, et que si on fouille vraiment tout le monde entre le passeport sanitaire, la fouille au corps, etc., pour entrer dans un stade, quand le match commence à 21h, il faut arriver à 18h.
Ben alors là,
s'il y a 50 000 personnes à faire rentrer ou 60 000 comme à Marseille.
Bien sûr, voilà, je vous entends évoquer les problèmes que tout cela pose. Maintenant, avant de parler des problèmes, il faut envisager les solutions. Et avant d'envisager les solutions, il faut bien se définir l'objectif. Sans but, pas de tir au but. C'est le cas de le dire en matière de football. Et manifestement, je crois que clairement, il faut trouver une solution. Ça a été dit, je crois, par Baptiste, pour faire en sorte que les personnes qui pénètrent dans l'arène du stade ne soient ni armées, ni équipées de produits dangereux. Donc, ça, une fois que tout le monde s'accorde là-dessus, ensuite, les moyens, bon, il faut les trouver. Oui, ça coûte de l'argent, c'est vrai. Maintenant, c'est quand même une vraie, vraie problématique. On est quand même capable de faire rentrer des personnes dans des avions. Il y a quand même énormément de personnes qui voyagent en avion tous les jours. Il y a des grosses fouilles. Il ne faut pas fouiller que les caisses.
Oui, mais un gros avion, c'est 500 places. C'est beaucoup moins que 50, que 40 ou 50 000.
Oui, vous avez raison. Et en même temps, bon, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des solutions à trouver. Alors, soit c'est de la prévention. On n'en sort pas, quoi. Soit c'est de la prévention, mais la prévention, on sait que ça a ses limites et par moments, ça ne marche pas. Les sanctions, c'est pareil. On sait que la sanction ne règle pas le problème. Donc, il va quand même, je crois, oui, c'est Baptiste ou Ludovic, je crois que les deux l'ont dit, il y a quand même des pays dans lesquels ça se passe très bien. Ça a été dit plutôt dans l'émission à l'époque des hooligans en Angleterre, quand même, c'était un problème majeur. L'Angleterre a réussi à assainir le football anglais et il n'y a plus de hooligans dans les stades. Donc, quand même, il n'y a pas de raison. Alors, on doit quand même réussir à faire aussi bien que les Anglais sur le sujet.
Jean Dorido, je vais faire un pléonasme vous concernant. Vous avez dit une chose extrêmement intéressante sur laquelle je vais rebondir. Jean Dorido parlait de l'Angleterre suite au drame du Hesel quand même. Il y avait eu 38 morts de mémoire. Oui, c'était 39, en mai 85 ou 39. Oui, oui. On a épurer les stades des hooligans. Alors, on a fait ça dans certains stades en France. Le Cop Boulogne du PSG a été carrément viré. Mais est-ce que ça pose pas aussi un autre problème? C'est que maintenant, comment on a fait l'épuration des stades en Angleterre? On a mis les places à des prix totalement délirants. Et donc, aujourd'hui, les tribunes populaires ne sont plus populaires et les stades ne chantent plus ou beaucoup moins qu'avant. Est-ce que ça pose pas une question sur la sociologie du football, Baptiste et ensuite Ludovic? Alors, Ludovic, le fait qu'aujourd'hui, en Angleterre, je vais vous prendre un exemple, vous voulez vous abonner dans des places vraiment derrière les buts, tout en bas, à Manchester United, je crois que ça vous coûte l'équivalent de 2000 euros par saison.
On voit sur les prix d'un week-end, hein, avec les déplacements pour aller voir ne serait-ce qu'un match à Liverpool, c'est hors de prix, ouais. Je suis pas beaucoup allé voir après en Angleterre au niveau historique du football, je peux pas témoigner de ce qui se passait avant, etc. Pour les puristes, oui, forcément, quand dans un stade il y a pas d'ambiance, on se fait chier, clairement. Après, est-ce que c'est lié du coup à la dissolution de ces clubs de supporters? On le voit après, heureusement aussi qu'ils sont là, il y a des débordements, mais on est content d'avoir les ultras parce que malgré les débordements, il y a de l'ambiance, il y a des chants, il y a des tifos, il y a des stades qui sont colorés, il y a du bruit, il y a des encouragements. Est-ce qu'on peut pas faire ça pour avoir vu des matchs nous à Montpellier, vous savez, on a la butaillade qui est toujours contre le pass sanitaire, donc du coup on les a pas là supportés depuis le début de la saison et ils sont en train de se réunir là à l'heure actuelle pour savoir s'ils vont pouvoir revenir contre Lyon parce que le pass sanitaire il a été prolongé obligatoire jusqu'au mois de juillet, mais forcément c'est pas la même ambiance, donc. Est-ce que ça va se passer comme en Angleterre? Nous ici, regardez, depuis hier, il y a tout le monde qui n'arrive pas à s'entendre, que ce soit la LFP, que ce soit les clubs.
La LFP, le préfet, etc. Là, hier soir, c'était un bin, c'est absolument innommable. On va faire réagir Baptiste, parce que sa ligne avait sauté. Baptiste, est-ce que quelque part, on a arrêté le foot populaire? Ça a été beaucoup touché en Angleterre quand on a épuré les tribunes des hooligans suite au drame du Hazel, parce que maintenant, les places sont tellement chères qu'il n'y a plus de personnes des classes sociales les moins élevées qui puissent se payer les places. Et moi, j'ai un ami qui est allé à Manchester United qui m'a dit « Tu vas à Old Trafford, il n'y a plus d'ambiance. » Ce qui est quand même complètement fou, alors que c'est un des stades les plus mythiques du monde.
Si j'ai bien compris, vous êtes peut-être pas un habitué, mais vous êtes allé une ou deux fois au Camp Nou à Barcelone.
Oui.
C'est pas non plus un stade de supporters.
Ah non, mais le Camp Nou, il y a pas d'ambiance. Alors par contre, si vous allez en Espagne, alors là j'ai fait Mestalla à Valence ou j'ai fait Sanchez-Pizjuan à Séville. Là, vous avez une ambiance de feu.
Et bien sûr, mais je pense pas qu'on puisse comparer la situation en Angleterre il y a une vingtaine d'années, la situation en France. Là, en France, en fait, depuis le début de la saison, en réalité, si on est très factuel, on a affaire à qui? Pardonnez mon expression, mais on a affaire à quelques connards, en fait, qu'il faudrait...
Parlons vrai.
Voilà, donc je suis vraiment désolé, mais du coup, oui, il y en a beaucoup, mais en fait, au final, si on prend l'affluence totale dans les stades en France depuis le début de la saison, il y a une dizaine de connards qui ont pénalisé des centaines de milliers de gens qui sont allés calmement voir les matchs de foot depuis le début de la saison. En Angleterre, il y a 20 ans, le problème, c'est que c'était des bandes, c'est que c'était une grosse partie du stade et qu'il a fallu épurer, entre guillemets. C'était aussi le cas au Paris Saint-Germain.
Oui.
Dans le pro, pour le PSG, c'était ça. C'était de casser les groupes qui étaient nombreux.
Au PSG, il y avait eu des morts, notamment en marge du match contre l'Apoel Tel Aviv, etc. Il y a eu carrément des morts.
Poursuivi dans un fast-food horrible.
Absolument.
Sauf que là, en fait, en réalité, depuis le début de la saison, pardon d'y revenir, en fait, et pardon d'essayer d'apporter un petit peu de mesure à tout ça, moi je suis d'accord qu'il faut des sanctions. C'est-à-dire que le mec hier qui va être chopé, parce qu'il va être chopé, le mec qui a acheté...
Ah mais il a été arrêté, il était en garde à vue.
Voilà. Et ben lui, c'est simple, c'est interdiction à vie d'assister à une rencontre sportive. Voilà, c'est pas compliqué. Si on fait ce genre de choses, si on met des grosses amendes, il faut qu'ils prennent 10 000 balles d'amende. Si on fait des sanctions qui sont dissuasives, on n'a plus un seul pèlerin qui va venir au stade pour jeter sa bouteille d'eau. Voilà, c'est pas des supporters, ces gens-là. C'est pas des... Tout à l'heure, Ludovic parlait de la pute paillade. Ça, c'est des vrais supporters. Il n'y aura jamais ce genre de débordement. C'est des gens qui aiment profondément leur club. Ils savent très bien que ça va porter préjudice à leur club s'ils se comportent comme ça.
Jean Dorido.
Mais non, alors, voilà. Moi, j'ai tendance à aller dans votre sens. D'abord, je rejoins Philippe David et aussi Baptiste. C'est vrai qu'il y a très, très peu, heureusement. C'est vraiment quelques individus isolés comme ça qui ont des comportements inadmissibles. Et c'est un fait que c'est le plus grand nombre qui paye. Et cette inflation comme ça des prix, ça pénalise tout le monde. Maintenant, et ça, vraiment, c'est une question. Et Dieu sait que j'ai cherché et j'ai toujours pas trouvé. J'aimerais quand même comprendre, j'aimerais que des psychologues se mettent sur le sujet, des psychologues footeux. Comment ça se fait qu'il y ait une telle violence avec le football. On a des sports ultra populaires, je pense notamment au hockey sur glace en Amérique du Nord, au Canada, aux USA. C'est un sport ultra populaire.
Ou en Russie, qui, en Finlande, voilà, en République
avec
tchèque.
Avec vraiment un engouement justement de des gens pour leur équipe. Et toute la famille va à la patinoire. Il y a une ambiance de folie. Il n'y a pas ces débordements violents. On parlait du rugby tout à l'heure. C'est la même chose. C'est un sport ultra populaire qui mobilise les foules. Et il n'y a pas ces débordements de violence. Et j'aimerais un jour quand même pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue avec le football qui fait qu'on a de tels débordements de violence dans les tribunes. Ça, pour le coup, psychologiquement, alors, ça reste un mystère.
J'ai appris que dans des pays comme la Grèce ou la Turquie, la violence est souvent en marge des matchs de basket, a priori. J'ai été très surpris, j'ai lu ça il y a quelques temps.
Les Turcs, je me rappelle avoir lu il y a très très longtemps dans la presse, à l'époque d'un match du Galatasaray,
au Paris Saint-Germain,
de voir à quel point il y avait une violence inouïe, avec, je me rappelle, des pièces de monnaie qui étaient limées pour provoquer des blessures et qui étaient jetées comme ça, justement, sur les tribunes adverses. Donc il y a quand même aussi une culture de la violence, parfois, dans certains pays, qui est assez problématique.
Alors, on va faire réagir, justement, Ludovic, vous qui êtes supporter de Montpellier. Quand Valentin Rongier, le joueur de l'OM, s'est pris une bouteille, a été blessé à la bouche, vous étiez au stade ce soir-là, à Montpellier ?
Pour le Montpellier-Nantes, non.
Pour le non, Montpellier-Marseille.
Montpellier-Marseille, oui, bien sûr, c'est le premier match de la saison.
C'est ça, c'était le match d'ouverture. Comment les gens ont réagi quand Rongier a été blessé dans les tribunes ?
Oui, effectivement, Baptiste, il disait, c'est sympa, mais bon, il y a aussi quelques abrutis dans les tribunes à Montpellier.
Il y en a partout, en fait.
Oui. Et comment les gens ont réagi autour de vous ? Ils ont sifflé ceux qui avaient commis cet acte inqualifiable. Comment ça s'est passé ?
Alors, dans la tribune, j'étais pas à côté, mais il y a toujours deux réactions. Les personnes qui entourent à la proximité immédiate, on a vu le capot hier lyonnais qui a tarté celui qui avait lancé la bouteille. Et puis après, là, il y a la réaction du stade qui va un petit peu s'engouffrer, remettre encore un petit coup d'ambiance, etc. Mais en tout cas, dans le stade, sur les 20 000 personnes qu'il peut y avoir, il y a personne qui peut cautionner ça. Mais dans l'ambiance du match, dans le moment, quand t'es pas à côté, t'as pas forcément vu, t'es pas à la télé, t'as pas vu ce qui s'est passé. Sur le moment, non. Mais après, tout le monde est unanime et dit, mais c'est n'importe quoi. Après, moi, ce qui m'a navré, c'est que quasiment tout, et vous le disiez tout à l'heure, Philippe, les événements qui s'est passé à Angers, etc., ça impliquait à chaque fois Marseille. Et je pense qu'il déchaîne des passions et dans mon sens, comme dans le bon.
Voilà. Oui, mais justement, Marseille, c'est le club qui déchaîne le plus de passions. Mais pourtant, c'est pas le club leader aujourd'hui dans le football français. Hein, sans être négatif, le club leader aujourd'hui, c'est le PSG. Hein.
Nous, ça nous gonfle à la Mosson depuis des années parce que les mecs ici viennent supporter Montpellier. Mais quand il y a Marseille, ben, t'as tout le stade qui est bleu et blanc. Et Nicolas me disait, voilà, c'est horrible quoi. Donc après, oui, je sais pas comment ça se passe dans les autres clubs, mais c'était le derby, etc. Mais à chaque fois, il y a une animosité qui est claire envers Marseille. Et Baptiste, ce qu'il disait sur les 10 connards qui nous ont fait chier, mais je pense que le mec, même s'il en garde vue aujourd'hui, il doit quand même rigoler parce que quand il voit le bordel qu'il a mis déjà sur la soirée hier, mais entre Olaf, la Ligue, l'arbitre dit non, c'est pas moi, c'est lui, il fallait reprendre. Mais le mec dit pour moi, franchement, qui ait jeté une bouteille, mais quelle bande d'incompétents, sérieux. Alors, le Jean disait, trouver des solutions. Mais je pense que c'est pas gagné avec ceux qui dirigent et qui décident aujourd'hui.
C'est pas gagné. Non, effectivement.
Jean Dorido.
Oui, non, on va pas se casser le moral, mais non, effectivement, c'est pas gagné. C'est un vrai problème assez endémique. On voit bien que c'est récurrent. Et maintenant, voilà, encore une fois, sans but, pas de tir au but. Et il n'y a pas de raison, si on cherche collectivement, enfin, si les instances footballistiques cherchent collectivement les solutions, il n'y a pas de raison, elles vont trouver, c'est sûr.
Restons optimistes. Mon cher Jean Dorido, moi je m'estime qu'on est en période de ballon d'or, et vu les propos mesurés et intelligents de Baptiste des Hauts-de-Seine et de Ludovic de Montpellier, ils méritent tous les deux le ballon d'or ex aequo. Vous êtes d'accord ?
Complètement.
Vous voyez, vous avez gagné votre ballon d'or, on ne sait pas qui va l'avoir dans quelques jours.
C'est bien la première fois que Philippe David est centriste.
Et on vous félicite, on vous remercie, Baptiste des Hauts-de-Seine et Ludovic de Montpellier. Et vive le foot, la violence n'a rien à faire dans les stades, ni ailleurs.
Effectivement.
Oh là là, je commence à être fatigué, ni ailleurs. Jean-Marie Bordry, bonsoir.
Absolument, bonsoir à vous, Philippe David. Mais justement, les voix de la politique se demandent si la violence a quelque chose à faire dans la campagne présidentielle. On va se poser une question avec nos deux invités, Nicolas Corato et Maxime Thiébaud. Pourquoi une possible candidature Zemmour hystérise le débat politique ? Tiens, est-ce que c'est lui qui les rend tous fous ? Est-ce que c'est eux qui le sont déjà ? Tiens, on va se poser cette question avec nos deux invités et on va revenir sur la candidature des Républicains. Républicains, puisqu'il y a eu un débat entre les différents prétendants. Est-ce qu'ils ont une chance, quel qu'il soit d'ailleurs, d'atteindre le second tour en 2022? Vaste question. Ce sont les voix de la politique, c'est dans deux minutes et c'est jusqu'à 20h.
Et c'est avec vous Jean-Marie Bordry et vos invités, mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller et Philippe Rossi.